Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, évidemment, les amis. Aujourd'hui, mes putains de merde, aujourd'hui je me suis levé, j'étais en feu. J'ai repensé à des trucs qui m'ont rendu fou. Qui m'ont ramené à des périodes de ma vie où j'avais envie de me cogner contre les murs, bordel de merde. Donc oui, alors, excusez-moi parce que là, je rentre direct. Pardon. J'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à regarder l'épisode de reprise, le Burger Ring numéro 34. Je vous remercie. Vous l'avez énormément partagé. Les chiffres sont absolument délirants. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait encore plus d'écoutes sur ce Burger Ring que sur l'épisode Misogynie, qui avait été l'épisode qui avait été le plus vu, et en fait Spotify donc ne me rentre même pas dans le classement. C'est génial, c'est-à-dire que là j'ai plus le droit. Je fais quatre fois les scores de la deuxième place, mais je ne suis pas dans le... ça commence d'ailleurs à me chauffer. Je pense que si je trouve une autre alternative à Spotify, je vais les envoyer se faire foutre, parce que en fait ça suffit quoi. Je leur amène plusieurs millions de personnes, parce que c'est ça les chiffres, hein, c'est plusieurs millions d'écoutes. Je leur amène plusieurs millions de personnes sur la plateforme, et ils me rendent même pas dans le classement. Donc en fait, je pense que tôt ou tard on va trouver une autre solution. Faut que j'y réfléchisse, mais on va trouver une autre solution. On va aller sur une autre plateforme parce que ça commence à me casser les couilles d'être maltraité, et ça suffit quoi. Ça suffit. On fait des scores de malade, on explose tout, et en fait ils nous mettent pas dans le classement parce que pour des questions politiques ça commence à me casser les couilles. Donc voilà, je vais voir les alternatives qu'il y a, mais de toute façon c'est pas pour ça qu'on va arrêter Burger King, je vous rassure. Qu'est-ce que je voulais dire les amis, déjà merci d'avoir été donc nombreux à écouter le dernier épisode. Je vous disais que ce matin je me suis levé en feu, j'ai repensé aux disputes que j'avais eues avec les gonzesses qui ont partagé ma vie. Putain, mais en fait plus je traîne avec mon chien seul dans ma grande maison, plus je suis heureux et plus je me rends compte que putain les femmes c'est... Non mais je vais dire des trucs misogynes, d'accord. Je suis désolé pour les femmes qui écoutent. Bon, de toute façon, vous êtes moins nombreuses que les hommes. Donc c'est pour ça que vous êtes une minorité. Putain, ce podcast fonctionne comme un régime totalitaire. Les minorités se font éclater. Les minorités écoutantes du podcast se font éclater, c'est comme ça. C'est la majorité qui dicte sa loi. La majorité, c'est des hommes qui sont en colère contre les femmes, donc vous allez ramasser. Voilà. Vous aviez déjà ramassé dans l'épisode misogynie les femmes. Et bien là, ça va être la deuxième tartinade, mais pas celle que vous aimez. Là, ça va être... je vais aborder des exemples parce qu'en fait, comme on dit en France, j'en ai gros sur la patate. Et comme j'ai une grosse patate, j'en ai très très gros. Non, mais les femmes, on a souvent envie de vous défoncer. Putain, j'allais dire un truc ultra gras, mais je régresse là, je suis désolé, je régresse. J'allais dire un truc ultra gras, vous savez ce que j'allais dire. On a souvent envie de vous défoncer, soit à coup de claque dans la gueule, soit à coup de bite dans le cul. Putain, mais c'est... C'est hyper machiste. Mais non, pas du tout, on a envie de vous cajoler, tout ça, on a envie de prendre soin de vous. Mais des fois vous pétez les couilles à un niveau qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, des fois, vous nous amenez au-delà de ce qui... C'est-à-dire que des fois, on arrive à la frontière d'un pays qui s'appelle la strangulation. Voilà. On arrive aux frontières d'un pays. Alors, on n'arrive jamais aux frontières de la patate, parce qu'il ne faut pas déconner. Enfin, moi, je fais 100 kilos. Jamais je pourrais lever la main sur une femme, fermer le poing et lui envoyer une cartouche. Jamais je pourrais faire ça. Mais putain, attraper le sifflet, là. Attraper le cou par là où sort le bruit désagréable, ça putain de merde. Oh, enculé putain de merde des fois. Enculé. Mais je sais que là les hommes, parce que les femmes qui écoutent ce podcast, elles vont pas comprendre. Parce que vous avez l'habitude d'aller super loin et de pas le payer. Un homme quand il va super loin, au bout d'un moment il prend une patate. Voilà, s'il va dans la rue et qu'il chauffe un autre être humain, au niveau vous nous chauffez nous de temps en temps, mais je pense qu'il prend une patate. Et comme vous êtes des femmes, on ne tape pas les filles. Évidemment qu'on ne tape pas les filles, c'est horrible. Parce qu'en fait, bon bref, je vais aller dans l'ordre. Bon. En fait, comment ça fonctionne? Tiens, l'homme a la force physique. Bon, enfin, l'homme d'avant. Pas Timothée Chalamet, mais l'homme d'avant a la force physique, d'accord. Bon. Et la femme, du coup, a dû développer des stratégies pour jouer ces cartels qui ne sont pas la force physique. Bien qu'évidemment, dans tous les cas, il y a des différences. Voilà, il y a des femmes qui sont très très fortes physiquement et des hommes qui sont très très faibles physiquement. D'ailleurs, je crois qu'il y a des hommes battus. Bon, c'est assez négligeable comme chiffre, mais ça existe quand même. Donc, c'est pas non plus, on n'est pas non plus sûr. Bon. Mais bon, je le mentionne quand même, par esprit d'équité. Donc, les femmes doivent développer des stratégies pour arriver à nous détruire sans nous mettre de patates. Donc, je sais pas si vous imaginez en termes d'évolution. Le niveau de vice qui a dû être développé depuis les cavernes jusqu'en 2024. D'accord? Parce que au début de l'humanité, si vous voulez, les femmes, en fait, c'était juste des hommes avec un vagin. Donc, en fait, quand une gonzesse, elle commençait à tancer un gonze, ça partait en patate de Cro-Magnon dans le pif, quoi. C'est-à-dire que les premières femmes de la préhistoire, elles ont pris des suplexes. Elles ont pris des RKO par Randy Orton. Il y a eu des trucs comme ça dans les cavernes. Il y a eu des prises de catch. C'est-à-dire que les femmes commençaient à tenter de faire des caprices parce que c'est dans leur nature, c'est dans leur utérus, tu vois. Et là, t'as un putain d'homme préhistorique de 100 plaques qui commençait à prendre 10 mètres d'élan et à lui faire une corde à linge dans la gorge pour la calmer, pour que le bruit désagréable s'arrête. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans un live récemment, à l'époque, il n'y a pas d'alphabet, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc, si tu veux, tu ne te retiens pas. Une gonzesse casse les couilles de 10 mètres d'élan, corde à linge. Sauf que là, c'est pas, si tu veux, c'est pas de la scénarisation musclée. Là, on y va vraiment pour faire mal. C'est à la corde à linge, tu la mets vraiment pour faire mal. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, vos petits cerveaux de femmes ont commencé à s'activer pour se dire « Comment je vais pouvoir me venger de cet atroce homme préhistorique ?» Sans prendre une patate dans la gueule. Alors, il faut que je développe des montagnes d'ingénierie et de vices féminins pour arriver à punir les hommes sans qu'ils puissent me mettre une patate. Et alors là, le cerveau de la femme s'est mis en branle. T'sais. Là, il a commencé à y avoir du neurone qui s'active. T'sais. Je pense que c'est à ce moment-là que les boîtes crâniennes ont réduites et que les mâchoires se sont réduites. Là, je pense que c'est à ce moment-là que Néandertal est devenu Homo sapiens parce que je crois que là, il y a eu de l'ingénierie. T'sais. Je crois que là, il y a eu du... Là, il y a eu de la réflexion. T'sais. Donc, elles ont commencé à se dire, bon, à quel moment je maîtrise les hommes? Quand je suis bonne. Réponse, quand je suis bonne. Donc là, elles ont commencé à arrêter de bouffer la graisse de mammouth pour devenir plus fit. Il y a commencé à avoir de l'exercice. Elles ont commencé à... Elles se sont dit, bon, l'autre, quand il a un rapport sexuel avec moi, il m'attrape les loches. Donc, je vais essayer de les mettre en valeur. Donc là, elles ont mis des espèces de soutien-gorge qui remontaient un petit peu leur loge là, du mésolithique supérieur. Et donc là, je suis les hommes préhistoriques. Un jour, ils sont rentrés. Putain, elles étaient devenues bonnes. Le mec, il rentre dans la caverne. Putain, mais... Oui, parce qu'en plus, ça me fait rire de leur donner un accent du sud-ouest. D'accord, maintenant, je vais imiter les hommes préhistoriques en faisant l'accent du sud-ouest. Donc l'homme préhistorique, le Néandertal, comme ça, il est arrivé dans la caverne, là, à Lascaux, dans les Pyrénées. En plus, c'est dans les Pyrénées, donc il avait forcément l'accent méridional. Donc il est arrivé, là, il fait « Putain, mais... Putain, mais t'es un chemin de bol !» Le mec, il avait un steak de brontosaure, là, sur l'épaule. Il arrive, il a fait tomber le steak, le mec. Tu lui dis « Putain, non... Putain, mais t'es un chemin de bol, là, gros !» Et l'autre, elle a commencé à minauder. À tortiller du fiac. À tortiller du tchoul. À raccourcir la peau de bête. Hop, au-dessus des genoux. Et puis après les genoux, mi-cuisse. Et puis ralachnec, quand. Alors l'autre, il devenait fou, l'autre. Les autres, ils étaient pleins de testo. Ils galopaient toute la journée, là, derrière des rhinocéros laineux, si tu veux. D'accord? Donc les mecs, ils étaient un peu avec la testo au max. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de perturbateur endocrinien. Donc les mecs, c'était des boules de testo. Donc autant te dire qu'ils avaient des érections permanentes, en fait. Tu vois, il fallait pas tomber en avant, sinon tu faisais une fracture du pénis, tu vois. Bon, et ben les types, ils rentraient à la caverne le soir. Un bout de loche, si tu veux, quatre enfants. C'est mathématique. Si les mecs qui rentrent, ils se disent bon, toi, je vais te cartonner en fait. Hein, dans leur cerveau, c'est comme ça. Puis à l'époque, il n'y a pas besoin d'être poli, si tu veux. C'est juste, on se dispute avec les autres hommes pour savoir qui va se reproduire. Et c'est d'ailleurs une époque où Timothée Chalamet n'existait pas parce que, par exemple, je sais pas, je dis une connerie. Si Brock Lesnar veut se reproduire avec une femme. Et que Timothée Chalamet veut la même femme, il y en a un qui va prendre une claque. Et c'est pas celui qui a joué dans Dune qui va la prendre. Donc ça se passait comme ça. D'accord? T'avais Mirko Krokop qui voulait baiser. T'avais Emmanuel Macron. Bon, mais il y en a un qui prenait un kick. Excusez-moi, pardon. T'en as un qui prenait un kick dans la gueule, en fait. Voilà. Et celui qui prenait un kick dans la gueule, il n'était pas policier croate au Kaïwan, en fait. Donc voilà. Donc ça s'appelait la sélection naturelle. Donc les meufs, à l'époque, elles devaient gérer des monceaux de testo, en fait. Elle devait gérer des animaux, en fait, mais c'est le quart de rugby qui part à Rosas, quoi. Voilà, à la fin de la saison, ça boit du manzana à la place de l'eau pour s'hydrater, si tu veux. D'accord? Et quand ça veut boire un truc alcoolisé, ça mélange du parfum avec du coca, tu veux. Donc, on était quand même sur des spécimens peu développés en termes de câlin, en termes de préliminaires. Oh, les préliminaires. Il y a une époque où ça n'existait pas. Il y a une époque où il fallait être élastique. Parce que si tu veux, les mecs qui déboulaient, pour expliquer avec quatre mots de vocabulaire à un mec du néolithique qu'il faut caresser le bonbon, si tu veux, c'était un petit peu compliqué, on va pas se mentir. D'accord? Il y avait des aïe, oui. Donc ça, c'était pour expliquer attention, hein, doucement, doucement. Parce que l'autre, il était là. Je sais pas ceux qui ont des chiens, vous voyez les chiens, les gros chiens là, je m'adresse que à ceux qui ont des gros chiens, qui ont des chiens au-dessus de 50 kilos si tu veux. Quand ils veulent sortir là, ils commencent à faire et qu'ils mettent des coups de tête dans la porte, ils te font comprendre qu'il faut se dépêcher d'aller chercher la laisse, quand. Mais là c'était un peu pareil si tu veux. Les mecs ils arrivaient avec leur laisse là, et les meufs, elles les repoussaient un peu parce que si tu veux c'était. Non, attends. Il faut beurrer le coquillage un peu là, parce que si tu veux, bon, là, si on y va direct, ça va être problématique. Ouais, désolé, je parle comme un porc. Vous savez, je suis un putain de barbare christianisé. Donc, 80% du temps, c'est le christianisme, 20% du temps, c'est le barbare, hein, d'accord? Voilà. C'est le principe du Visigoth, c'est qu'il y a 2 minutes, il est en train d'adorer l'esprit de l'ours et du taureau sauvage dans la forêt, tu vois. Et le lendemain, il est à genoux dans l'église. Bon, mais il y a une transition qui doit se faire à l'échelle d'une vie, d'accord? Moi, je suis né comme un énorme barbare du sud-ouest en terre visigothe et je me suis christianisé sur le tard, donc j'ai encore des réminiscences du néolithique, d'accord? Voilà, c'est pour ça que quand j'imite des hommes préhistoriques, je leur file l'accent de Lolo Ponce, voilà. Parce que si tu veux, bon, c'est une part de moi. Voilà, je suis désolé, ce podcast va être un petit peu cru, mais de toute façon, quand on parle de femmes. On est obligé d'être un peu grivois. C'est aussi ça la culture française. Donc je vous demanderai de m'excuser, mais ça va être un peu gras. D'accord? Voilà. Les filles, bouchez-vous les oreilles. Arrêtez le podcast parce que ça va être gras. Ce podcast va être gras, je vous préviens. On en a 12 minutes 46 secondes de podcast. C'est gras. D'accord? On n'a pas encore touché le steak là. C'est comme quand tu achètes de la longe de porc et tu te rends compte que finalement il y a 1 cm de viande, il y a 3 cm de gras en fait. Mais là, les filles, on est dans les 3 cm de gras en fait. Donc soit vous bouffez votre gras pour atterrir à la viande qui va arriver bientôt, soit vous laissez ça et vous allez vous faire une salade dans un salade bar. Voilà. Donc vous êtes prévenus, on continue. Donc si tu veux, les gonzes à l'époque, je disais, c'est... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Si tu veux, quand ils voient un bout de loche, il faut y aller, quoi. Il faut que le tison y rentre. Blablabla. Bon, voilà. Et donc si tu veux, les meufs doivent développer énormément, je disais, d'ingénierie pour arriver à instaurer des codes. C'est-à-dire que non, quand tu rentres et que tu sens le foin et que tu as couru toute la journée, que tu as l'huile du cul, là... Et que tu sens la fumée, tu sens le dehors. Tu sais, quand t'étais gosse, tu rentrais à la maison et tes habits sentaient le dehors. Tu sais, c'était un mélange de fumée, de feuilles de chêne, de terre humide. C'était vraiment très particulier. Il y a que nos darons qui pouvaient nous saquer à ce moment-là. Bon, ben cette odeur-là, tu vois. Mais eux, ils l'avaient x4 parce que c'était des adultes, tu vois. Donc si tu veux, ils rentraient de la chasse, t'avais pas l'eau courante, tu te torchais avec la main. Je vous laisse imaginer. Donc ils déboulaient dans la caverne, ils arrivaient comme ça. Et ils poussaient des cris gutturaux, et là, il fallait que les femmes les contrôlent. Parce que ça, en fait, in fine, l'enjeu, c'est de contrôler les hommes. C'est qu'ils n'obéissent plus à l'immédiateté de l'envie du rapport sexuel, mais instaurer des codes où, d'abord, il faut me séduire, et puis après, on fera des bisous, et puis après, on fera des préliminaires, et après, tu pourras te dégorger le poireau. Mais avant ça, il y aura des étapes, et plus l'histoire avançait, plus les étapes se sont rallongées. C'est-à-dire que à la préhistoire, il n'y avait pas d'étapes. Le mec rentrait. Après, chez les Gaulois, il fallait leur ramener une fleur. Tu vois, à l'Antiquité, il fallait leur ramener une fleur, leur acheter un truc. Fallait leur acheter un truc. Mais il n'y avait pas encore préliminaire. Tu vois, fallait leur acheter un truc, tu rentrais. Voilà. Mais au moins, elles avaient un truc par rapport à la préhistoire. Après, on est arrivé au Moyen-Âge. Donc là, fallait leur acheter un truc et dire un poème. Fallait dire un poème en occitan, tu vois. Donc tu leur achetais un truc aux croisades ou tu le volais, hein, parce qu'on va pas se mentir, une claque et tu repars avec la marchandise du bédouin, tu vois. Bon, donc ça revenait avec des soieries du Moyen-Orient que tu avais entre guillemets acheté à un chamelier, tu vois. Et donc tu rentrais, ma douce, voici une soierie d'Orient. Ok, donc il y avait ça, et après il y avait un poème. Donc, tu lui donnais la soierie, et là il y avait un truc en occitan. Aqueros montaños que tan auto sun, la mille calun es, tout ça, bon, lausel ou debaixo de la fenestre, bon, bref. Et là, oh, la meuf, elle était en mode, oh putain, il est romantique. Oh, il a mis une claque à un bédouin pour me ramener une soierie, et puis là, il est en train de me raconter une chanson populaire en occitan, oui, parce qu'en fait, les chansons romantiques du Moyen-Âge, c'est nos chansons du rugby, en fait. C'est des trucs d'énormes bœufs. Aqueros montaños, donc le secanto qui a été composé par Gaston Phébus, d'accord, c'est un poème, c'est absolument épique. Ça, grosso modo, ça raconte que... Enfin, à un moment, il y a une phrase que j'adore, qui est très pyrénéenne, en fait, qui est très médiévale. « Montagne, écartez-vous ». Tiens, le mec, il y a sa gonzesse de l'autre côté des Pyrénées, il est en mode « Montagne, écartez-vous, parce que là, il y a ma gonzesse, il faut que j'aille la voir, donc écartez-vous ». Il explique aux montagnes qu'elle doit s'écarter, je trouve ça absolument épique, je trouve ça magnifique. Donc t'arrivais avec des trucs de bourrin comme ça devant les meufs, et elle kiffait, elle te trouvait stylé. Donc là, il y avait la petite soierie d'Orient, le petit poème, et là, tu pouvais arriver au « là, 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 là !» Et puis après, t'arrivais la Renaissance. Alors là, il fallait faire un cadeau, le poème, et on a instauré le bisou. On a instauré le bisou avant la levrette. Oh, tu ne tapes pas dans un yaourt avant d'avoir regardé la composition, si tu veux. Quand tu achètes un yaourt à la graisse, tu regardes le taux de graisse. Hein. Tu lèches la languette. Si tu veux. Tu ne te tapes pas un yaourt sans lécher la languette en plastique qu'il y a dessus là. Hein, l'opercule, on l'a lu là. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est un peu pareil. Le petit bisou et on passe au là, là, là. Mais il y a trois étapes. Il y a trois étapes avant le « là, 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 là ». Donc, si vous voulez, on progresse petit à petit. La femme fait son chemin petit à petit. Elle installe les pions de génération en génération, de levrette en levrette à travers les siècles. Elle met des étapes supplémentaires petit à petit. C'est un travail au corps. Elle avance les pions millimètre par millimètre. Ce que nous, les hommes, sommes incapables de faire. Nous, on a toujours fonctionné. On n'a jamais trahi notre essence. Si, on met du parfum, voilà. On se lave et on met du parfum. C'est la seule diff qu'on a par rapport à la caverne. Parce qu'on a toujours la même envie qui est de rentrer dans l'art direct. Mais avec le temps, on a ajouté un truc qui est se laver, en fait. Bon, mais c'est pas plus mal, vous me direz. Parce qu'il faut pas que la gonzesse ait l'impression d'embrasser un Saint-Bernard qui rentre de balade. Donc, si vous voulez, là, c'est en fait faire un câlin à un animal de cirque, ça va 2 minutes. Donc c'est pas plus mal qu'on se soit lavé un peu le bugne avant d'y aller. Mais c'est la seule chose qu'on a fait. On n'a jamais trahi le reste, on est restés les mêmes. Vous savez souvent dans les reproches qu'on faisait, ah t'as changé, on est restés les mêmes. Les femmes ne peuvent pas nous dire qu'on a changé. Elles ne peuvent pas nous dire, ah t'as changé, c'est chaud. Non, on est restés les mêmes. On a toujours ce côté, tu rentres de la chasse hein, et t'as envie d'y aller. T'as envie d'y aller. Et tu veux pas raconter des histoires ou faire trop de câlins. Si, de temps en temps, t'es en mode câlin, là, je force le trait. Mais putain, quand t'es vraiment plein... La vérité, elle est là, les gars, vous le savez. Vous le savez. D'accord ? Là, vous l'enlacez dans les bras, les petits bisous, vous commencez à descendre la main. En vérité, vous avez envie de faire comme on faisait à l'époque. Hein. Rentrer dans la maison, fermer la porte très fort et faire... Vous imaginez ce qu'elles ont traversé les gonzesses. Franchement, des fois, je me dis, mais elles ont un mérite de fou, quoi. Elles ont vraiment un mérite de fou, les femmes, parce qu'elles reviennent de très très loin. Dites-vous qu'elles ont traversé une époque. Il y avait du coup de latte dans la porte, façon Last Action Hero. Ah, donc déjà, faut imaginer le bois qui explose. La porte, elle s'ouvre. Oh putain. Oh, le mec, il annonce. Il annonce qu'il est de retour. Oui, parce qu'en plus... Au début, c'était des cris. Mais putain, en l'an 1000, là, en l'an 1000, quand le comte Raymond là, de Toulouse, il déboulait là. Raymond IV, tu vois, il déboule là, il revient des croisades. Bon! Femme! Je suis rentré, les croisades! Où êtes-vous? Putain, la gonzesse, elle se cache derrière les meubles, quoi. Elle vient Bataclan, quoi. Elle vient Bataclan, mais elle doit courir, se mettre derrière les portes. Parce que l'autre, il marche avec son palourd, là. Blam, 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 blam. Il pue le cheval, quoi. Il sait pas laver les burnes depuis Antioche. Il déboule, et blam, 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 blam. Le château, il tremble. Les bruits de côte de maille, il a... Où êtes-vous? Madame, où êtes-vous, mamie? Vous m'avez manqué. Où est donc ma femme? Allez, scellez mon cheval et ramenez-moi ma femme. Oh, putain. Oh, les pauvres. Oh, putain, les pauvres. Oh là 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 là, les pauvres femmes. Oh, putain. Oh là là. Oh putain, donc elles ont traversé tout ça, si vous voulez. Alors on arrive, j'en étais à la Renaissance, le bisou. Et là, on arrive à l'époque des perruques. Les trucs de fils de pute, là, la monarchie absolue, là, avec les Versailles de mes couilles, là, avec les. Putain, les fourberies de Scapin, là. Les chaussettes de rugby, là, montées jusqu'aux genoux avec les ballerines de fils de pute, d'accord. On arrive à cette époque-là, et là, là, c'est le début. Là, c'est le début de la merde. Là, c'est le début de la merde. Il faut s'envoyer des lettres. Il faut faire des courbettes. Aller dans les jardins du Luxembourg, jardins du Louvre. Se poursuivre en jouant à Colin Maillard. Et puis, tu mets des mains au cul. Et c'est le libertinage. C'est dégueulasse. Le marquis de Sade. Le marquis de Sade! Comme dirait, comment il s'appelle, Lolo Pons. c'est dégueulasse. Cette époque est dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est là où on a installé toute la codification dégueulasse pour avoir un rapport sexuel avec une femme. Madame! Oh votre parfum enivre ce jardin parisien de leur présence, vous me rendez fou. Mon esprit est tout tourneboulé, madame, lorsque je... Non mais oh, 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 c'est pédé, là. C'est pédé, moi j'aurais préféré qu'on reste à l'époque de Raymond VI de Toulouse. D'accord. Quand tu enfonces des portes, on dit « Madame !» Là, c'est dégueulasse, ça commence à être déclamatoire. Hein. Et tu fais des courbettes devant madame. Oh, oh là, oh, oh, votre robe, la traînée de votre robe est absolument sublime, madame. Et c'est le moment où il a commencé à fallait les amener chez tel commerçant qui te vendait le triple du prix des putains de robes en soie. Mais c'était infernal. Mais c'était infernal, bordel de merde. Ça a commencé. Oh, je souhaiterais que nous passions chez le maître parfumeur de la place Vendôme. Et là, tu devais aller à la place Vendôme, et toi, t'avais qu'une envie, c'était de la chincher, et fallait que tu te tapes la sélection de parfums, alors qu'à la préhistoire, le mec le plus romantique, si tu veux, à la préhistoire, d'accord, le sommet du romantisme à la préhistoire, c'est de pas péter pendant la levrette, voilà. Le mec qui fait pas ça, c'est un grand romantique, parce que les autres qui s'en battent les couilles, c'est des goujats, tu vois. Même pas, c'est des mecs normaux, en fait. Donc, on revient de là, tu vois. Et ça finit chez le maître parfumeur. Regardez cette flagrance d'Orient. Elle a été ramenée de Perse par un autre maître italien parfumeur que j'ai rencontré à la grande foire de Milan et qui m'a fait parvenir ces essences absolument incroyables. Madame, tenez. Alors, le flacon n'est pas donné, mais je suis persuadé que le gentilhomme qui vous accompagne sera ravi de dépenser la moitié de son salaire annuel pour vous faire ce petit plaisir, madame, car vous le valez bien. Voilà, ça a commencé comme ça. Et là, ça a été la boîte de Pandore. Là, on leur a donné tout aux gonzesses. On leur a donné le droit de nous péter les couilles. De nous péter les couilles, putain de merde. D'avoir des exigences de ouf. Alors que t'es une grosse. Parce que ça aussi, faut que je l'aborde. La gonzesse qui a des exigences qualitatives... de mannequin, d'accord, qui est un plot. T'es un plot, d'accord. Tu appartiens aux autoroutes Vinci, t'as été oublié, là. D'accord, par le camion orange qui les pose, là. Attention, il y en a 34 qui sont percutés par an, voilà. Et toi, personne t'a pas percuté depuis longtemps, quoi, tu vois. Et tu fais quand même des chichis, quoi. Tu fais quand même des chichis, ça aussi, c'est insupportable. On a fabriqué des monstres. On a fabriqué Frankenstein. T'es une 4 sur 10, t'as des exigences de courtisane de Louis XIV, mais la courtisane de Louis XIV, elle est triée sur le volet. D'accord. Si Louis XIV l'a fait monter de temps en temps dans sa piole là, pour lui mettre une séance, c'est qu'il est, il a fait un filtre sur 600 gonzesses, en fait. D'accord. T'as été sélectionné sur les cheptels français. C'est la crème de la crème. D'accord. C'est le sommet de la qualité, si tu veux. Donc oui, elle peut se permettre d'aller chez le parfumeur. Et les autres, t'es un boudin, tu t'exprimes mal, t'es conne comme un balai. T'es même pas tradi, tu sais pas faire à bouffer. Enculé, quand t'as fait chauffer une pizza, t'as cru que... Mais c'est infernal, ça. C'est infernal, en fait. Il y a des exigences surdimensionnées, mais c'est infernal. C'est infernal. Et elle continue sur les standards de l'époque des perruques, là, de l'époque contemporaine. D'accord? L'époque du parfumeur, du tailleur enculé. C'est devenu de plus en plus compliqué, bordel de merde. La levrette, tu l'avais 5 minutes après être rentré dans la grotte. La putain, c'est des mois. Des mois, je sais pas où j'en suis. Oh! Enculé, tu nous casses les couilles. Hein. D'accord? T'es pas si bien que ça au final, donc ferme-la. Il y a le moment, tu vas la clasher. Tu la veux, mais tu la clashes. Putain, on a ouvert la boîte de Pandore. Alors après, ça a été alors, en 2024, je vous raconte pas. En 2024, c'est des grosses en jogging qui veulent être traitées comme si elles étaient Claire Underwood. Mais arrête-toi. T'es pas Claire Underwood, si tu veux. D'accord? Donc ta gueule, en fait. T'as un jogging, tu lâches des caisses, ça te fait rigoler, t'as un abonnement Netflix, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut se concentrer maintenant pour faire l'amour avec des gonzesses pareilles, quoi. Parce que si tu réfléchis 2 minutes à ce que t'es en train de pilonner, mais tu te dégoûtes. Tu te dégoûtes, tu te dis, mais putain, je mérite des frites, des aiguillettes de canard aux patates forestières, et je suis en train de me taper un kebab, un McDo. Je suis en train de me taper un French tacos. Alors que je mérite beaucoup mieux. Mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait les hommes sont allés tellement loin dans la cuckerie. Mais c'est notre faute! On les a laissés nous diabler. On les a laissés mettre des protocoles petit à petit. Et donc aujourd'hui, la strangulation n'est plus possible, elle n'est plus envisageable. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir, les amis. C'est en fait, je voulais vous parler. Donc les femmes, voilà, c'était pour vous faire la conclusion de tout ça. Les femmes ont mis énormément de protocoles et elles sont désormais tellement surévaluées qu'elles touchent plus le sol. Et elles vous parlent d'une façon, si tu veux, tu te dis, mais attends, mais ça serait un mec qui te parle comme ça, mais tu lui mettrais des enchaînements, en fait. Tu le mettrais dans le coin du ring et tu lui mets des gauches-droites, en fait. Tu lui fais une Rocky Marciano versus Jersey Joe Walcott, tu vois. C'est plus possible. Elles vont beaucoup trop loin parce qu'en fait, elles ont un totem d'immunité. Donc depuis, bon, j'allais dire depuis l'époque contemporaine là, depuis Versailles. Non, parce qu'en fait, elles ont pris des branlées jusque dans les années 70. Les pauvres. Non, mais on va dire là, depuis 2000, si tu veux, c'est fini. Tu vois, les femmes ont un totem d'immunité, MeToo, compagnie. Tu ne peux plus te permettre de la traiter comme elle mériterait d'être traitée. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, les femmes ont la capacité d'amener les hommes au bout du bout du bout. Moi, quand j'étais ado, je me disais enculé. Putain, les mecs, tu sais, quand j'entendais une affaire d'un mec qui avait brutalisé sa femme et tout, je me disais putain, mais vraiment, il faut vraiment être une merde pour faire ça. Et putain, en grandissant. En ayant traversé les disputes que j'ai traversées, en voyant à quel point les femmes peuvent être perverses, à quel point elles peuvent t'amener loin. Elles t'amènent loin du rivage de la normalité, enculé. Tu te retrouves en haute mer, là, sur une barque, ça tangue, il y a des vagues de 10 mètres, et elles continuent à te chauffer, enculé. Mais tu te dis, tu ne le valides pas, je ne validerai jamais quelqu'un qui frappe une femme. Il ne faut jamais se laisser aller à ça. Mais au fond de mon cerveau, je conçois que quelqu'un puisse déraper. Je ne le valide pas. Je ne le validerai jamais. Je dirai jamais que c'est bien. Je ne le justifierai jamais. En revanche, au fond de moi, je peux le comprendre. Je peux envisager que ce soit compréhensible. Vous comprenez la nuance, elle est très importante. Je ne le valide pas. C'est horrible de faire ça parce qu'en fait, en plus, ce qui se passe, c'est qu'une femme, elle te chauffe, elle te chauffe, elle te chauffe parce qu'elle n'a pas conscience, en fait, de à quel point elle va loin. Et le jour où tu la tapes, je pense qu'elle redevient instantanément une femme craintive et heurtée, et c'est horrible. Une femme qui pleure, c'est horrible, ça fait mal au cœur. Une femme triste, déjà. Ça fait extrêmement mal au cœur quand les femmes sont tristes, c'est terrible. T'as envie qu'elles soient heureuses, les femmes. T'as envie qu'elles soient pétillantes et pleines de vie. Donc c'est vrai que, si tu veux, il ne faut jamais passer ce pas-là, parce que, sur l'instant, t'es à bout. Il faut que ça s'arrête. Donc, tu te dis, enculé, je vais lui mettre un supplex, tu vois. Mais une fois que tu le lui as mis, ça redevient une femme, elle se remet à pleurer, elle se met dans un coin, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frappé l'être le plus délicat, le plus sans défense, le plus désarmé qu'il y a sur Terre, je suis une merde, en fait. Après ça, il y a l'enfant, quoi. Et encore, je pense qu'on doit plus facilement pouvoir mettre une tarte à un enfant qu'à une femme. Mais si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut jamais passer cette limite, parce que c'est terrible. En fait, une fois que tu as fait ça, mais tu te sens comme une merde. Moi, je pense que les mecs qui mettent une claque à leurs gonzesses et qui les font pleurer, après, ils se sentent extrêmement mal. Enfin, j'espère pour eux qu'ils se sentent extrêmement mal. Je pense que c'est... Alors évidemment, une femme qui te saute dessus avec un couteau et qui essaie de t'attenter à ta vie, à un moment, il faut la stopper. Hein. Bon, j'avais vu une vidéo là, il y a une gonzesse, elle tapait un mec, elle le tapait, elle le poursuivait, elle a commencé à prendre un ustensile, le mec s'est retourné, il lui a mis un crochet. Bon, ben... là, on a annulé les 30 000 ans de la caverne. Là, toutes les étapes, on les a annulées d'un coup. Là. Elle a repris une marmule et ça s'est arrêté. Tu vois. Bon, là, effectivement, quand il y a agression physique, et encore, parce que les femmes, des fois, elles te mettent une claque. Bon, mais c'est comme ça. Tu reprends sur toi. Tu lui attrapes la main, tu lui dis casse-toi, tu t'en vas. Et c'est réglé. Mais c'est vrai que maintenant que je suis adulte et que j'ai eu des disputes très violentes au sein de mon couple, je comprends qu'il y ait certains mecs qui n'aient pas les armes psychologiques ou la patience d'être amenés au bout d'eux-mêmes. Je vous parle pas de la racaille de merde qui frappe sa gonzesse, là, le cassos de 40 balais qui est alcoolique et qui frappe sa gonzesse pour un oui ou pour non. Je vous parle pas de ça. Je vous parle du brave type qui a jamais levé la main sur une femme et qui un jour, désarmé parce que les gonzesses peuvent aller très 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 loin. Mais si vous voulez, il y a une règle à ne jamais dépasser, c'est de ne jamais frapper une femme. Il faut jamais frapper une femme, sauf si elle essaie d'attenter à votre vie. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en fait, certaines fois, en faisant certaines choses, elle peut tenter d'attenter à votre vie par des moyens déviés. Ça, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que la femme a mis en place des protocoles pour arriver à se venger d'un homme et à lui faire beaucoup plus mal que si elle le frappait par les mots, par les coups qu'elle peut lui faire, lui enlever ses enfants, des trucs comme ça. Il y a des trucs horribles et tu comprends que le mec ait des envies de meurtre, d'accord ? Bon. Mais même dans ces cas-là, il faut prendre sur soi et il faut trouver des solutions. De toute façon, je pense que vous êtes toujours récompensé quand vous n'avez jamais trahi des règles très très importantes à ne pas dépasser. Voilà. Moi, je pense que même si c'est très très dur, il y a toujours au bout du tunnel une solution. Alors, il y a des cas qui sont extrêmes, hein, mais il y a toujours moyen d'arriver à vos fins sans avoir levé la main sur une femme. Voilà. Donc, si vous voulez, elles ont, avec le temps, elles ont créé des moyens de nous rendre frappadingues, de nous amener à des points où on est au bord de la rupture. Parce qu'en fait, bon, je vais aborder une dispute que j'ai eue une fois. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais en reparler. J'étais avec une gonzesse donc, qui vivait avec moi. On s'était rencontrés par des amis qu'on avait en commun. Et elle était à la même fac que moi. Elle était à la fac du Mirail. Bon, elle était en histoire. Moi, je reprenais mes études à ce moment-là parce que j'avais été ouvrier. En fait, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai bossé comme pion pendant un certain temps. Puis après, je me suis mis au chantier et au déménagement. Et donc, il y a eu un moment où j'ai repris mes études parce que je voulais changer de boulot, je voulais avoir un truc un peu bien. Et donc, je suis retourné m'inscrire à la fac du Mirail pour valider ma licence. Voilà, puisque j'avais un DEUG, je voulais valider ma licence. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai tout repris le cursus. Donc, j'ai fait sociologie, anthropologie. Et parce que j'avais fait des premières études, j'avais fait deux ans de LLCE à Paris. Et j'avais abandonné mes études à Paris parce qu'il fallait que je bosse et tout. La fac était de l'autre côté de la fac. Elle était, j'étais à la Sorbonne et la fac était à comment ça s'appelle, à Porte de Clignancourt. Et moi, j'habitais à Arcueil-Cachan, donc j'étais à 20 minutes de la Porte d'Orléans en transport en commun. Donc après, il fallait que je prenne pour ceux qui connaissent pas Paris, si vous voulez, je me tapais la traversée entière de Paris sur la ligne 14 ou 11, je sais plus laquelle c'est. Ou 12, je ne sais plus, je crois que c'est la 14, hein, qui fait Port d'Orléans, Port de Clignancourt. Et c'était infernal, il y avait, je ne sais plus combien, il y avait peut-être 40 minutes, hein. Il y avait 40 minutes, de dans mon souvenir, c'était ça, quoi, 40 minutes de métro, c'était infernal, bon bref. Donc j'avais lâché mes études à Paris, je m'étais mis à travailler à Paris, et j'avais bossé à la viande, j'avais bossé dans la viande à Rungis, et j'avais fait plein de petits boulots, j'étais pion aussi, à mi-temps, enfin je faisais plein de boulots, et finalement j'en ai un peu marre de cette vie-là. Donc je suis rentré à Toulouse pour des raisons personnelles que j'évoquerai peut-être un jour en podcast pour m'occuper de ma mère. Donc je suis rentré à Toulouse et ma mère étant tombée gravement malade, j'en parlerai peut-être un jour ça pour aborder la question du cancer qui est quelque chose qui nous touche à tous. Bon, ma mère est décédée d'un cancer et je suis rentré, je m'étais très violemment disputé avec elle avant de partir à Paris. Et je suis rentré m'occuper d'elle avant qu'elle décède, pendant qu'elle a fait ses chimiothérapies. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de ma mère et de me réconcilier avec elle avant qu'elle ne parte. Donc je suis rentré à Paris à ce moment-là et je me suis dit bon, tu as lâché tes études, tu fais des boulots qui sont difficiles. Alors à ce moment-là, j'étais encore jeune, donc j'avais du jus, j'étais dur au mal, je bossais, j'avais une vie vraiment très très ghetto, j'envoyais quoi, voilà, j'allais bosser, je faisais de la sécurité, je faisais du déménagement, je faisais du chantier, bon. Et puis si vous voulez, au bout d'un moment, vous prenez de l'âge et vous commencez à penser à plus tard et vous dites « enculé, je commence à fatiguer ». Donc, je suis rentré à Toulouse et je me suis dit « je vais reprendre mes études pour essayer d'avoir un boulot un peu bien ». À l'époque, je visais un truc qui soit un peu moins physique que ce que je faisais parce que le déménagement, c'est un boulot très très difficile. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mes camarades du déménagement de la société Chichpouldem. Je les embrasse, je pense à eux régulièrement. C'est un boulot très très difficile, ils ont beaucoup de mérite de faire ça. Donc je leur passe le bonjour à tous s'ils écoutent le podcast. Ils me manquent. Et je sais que leur boulot est difficile et vraiment de temps en temps, j'y pense et je me dis putain, ils ont beaucoup de mérite. Comme beaucoup d'autres boulots, hein, je vous parle de ça parce que moi je l'ai fait pendant plusieurs années, mais comme beaucoup d'autres travail. Bon bref, c'était pas le sujet. Et si vous voulez, donc j'ai repris mes études pour essayer d'avoir un boulot plus tranquille. Et donc à ce moment-là, je rencontre ma copine juste après le décès de ma mère. Et bon, il se trouve que à l'époque, j'étais beaucoup moins, on va dire, fatigué par la vie et par les événements. Donc, j'avais une forme d'acceptation beaucoup plus grande. Alors, il se trouve qu'elle était plutôt de gauche. Voilà, c'était quelqu'un de gauche. Elle avait des côtés conservateurs, mais il y avait quand même des trucs. Bon, elle était très pro LGBT parce qu'elle trouvait ça. Oui, en fait, non, elle était pas conservatrice. Enfin, il y avait des trucs sur lesquels oui, mais très. Oui, en fait, non. En fait, je suis en train de réfléchir. C'était une énorme gauchiasse. Donc, elle était en mode, oui, les homos. Elle était dans l'adoption. Fais tes meubles toi-même. Le do it yourself. Je supporte pas ça. Pour moi, un meuble, tu y vas, t'achètes un truc qui pèse. Déjà, un meuble qui pèse pas lourd, c'est de la merde. Voilà. Et elle faisait des meubles en carton qu'elle peignait. Il y avait de la peinture partout. J'avais envie de la brûler. Voilà. Bref. Donc, du coup, il y avait ça. Le monde alternatif. Alors, attention, c'était pas une teufeuse, hein, pas du tout. Mais il y avait un côté écologie de ville, mettre des plantes, voyager en Turquie, sourire aux autres, tu vois. Bon, moi, la Turquie, j'ai juste envie qu'elle soit démantelée. Donc voilà, il y avait des trucs sur lesquels on était un peu en décalage. Et donc, on vivait ensemble. Alors, c'était un peu particulier parce que j'étais propriétaire de cet appartement, parce que j'ai quand même passé... moi, je n'ai pas eu de jeunesse. Hein. De ma vingtaine à ma trentaine, je n'ai fait que travailler. J'ai fait que travailler. J'ai pas voyagé. J'allais pas boire des coups. Mes copains me voyaient jamais en soirée. Ils me disaient putain, t'es pas un mec rigolo. C'était boxe, boulot et mettre de côté pour acheter un appartement. Et il se trouve que j'avais réuni une somme substantielle en plusieurs années de travail. Et ma mère étant décédée, j'ai touché un petit pécule que m'a laissé ma mère, ce qui m'a permis d'acheter un appartement dans Toulouse. Que j'ai pu financer avec le fruit de mon travail et avec cet héritage prématuré. Donc j'étais propriétaire à 26 ou 27 ans, j'étais propriétaire. Donc c'était super. Alors, c'était un petit appartement, quartier Patte-d'Oie. Je rencontre cette gonzesse, elle vient vivre à Patte-d'Oie. Bon, bien sûr, j'avais des frais monumentaux. Je ne demandais rien à ma compagne. Parce que bon... pour ça, les femmes sont féministes, mais pour ces choses-là, elles sont à l'ancienne. Bon, moi, ça me dérangeait pas. Moi, j'avais été élevé comme ça dans ma tête. Bon, le problème, c'est que si vous voulez, on va dire de manière implicite, je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas. J'essaie d'être impartial. Alors, je le serai jamais suffisamment, mais j'essaie de me mettre à sa place aussi. Mais si vous voulez, c'était très étonnant parce qu'il y avait des gros discours féministes, mais il n'y avait pas de participation pour le loyer. Il y avait une participation de temps en temps pour l'électricité, pour les frais annexes, mais bon, le resto, je le payais tout le temps et on y allait de toute façon. À l'époque, je travaillais beaucoup, donc je gagnais bien ma vie, donc je l'invitais tout le temps. Elle payait presque jamais le resto. Je me chargeais de toutes les grosses dépenses courantes, mais en plus, moi, j'ai été élevé comme ça, donc moi, ça m'allait, quoi. Moi, c'était, je me sentais mal quand ma gonzesse sort. Alors, de temps en temps, elle payait un resto, voilà, je sais pas, 1 sur 4, hein, 1 sur 6, même des fois, je pense certaines fois 1 sur 10, tu vois. Bon, mais c'était très bien, voilà. Moi, ça m'allait. Mais on va dire que là-dessus, elle fonctionnait à l'ancienne. Et après, par contre, il y avait de la grosse idéologie féministe, en fait. Bon, c'était un petit peu en décalage quand même avec la façon dont elle vivait, c'est-à-dire quand même beaucoup en bénéficiant de ce que moi j'avais accumulé en tant qu'homme avec mon travail d'homme. Mais ce que, ça ne me pose pas de problème. Ça m'a posé problème a posteriori quand il y a eu des discours féministes. Mais sur le coup, au moment où on le vivait, pour moi c'était normal. J'avais rien à redire. Voilà. Donc, évidemment, on avait des rapports sexuels réguliers. Bon, à l'époque j'étais très jeune, donc j'ai toujours été très plein de testo, donc c'était régulier, voilà, régulier. Et du coup, d'une certaine manière, si vous voulez, de manière implicite, d'accord ? La question de l'implicite est très importante dans ce que je vous dis. De manière implicite, les femmes ont quelque chose de précieux qui est qu'en fait, elles donnent accès au sexe ou non. Et en fait, une fois que vous avez une femme, bon, vous payez le loyer... Vous payez le resto, vous occupez de payer l'essence de la bagnole, vous occupez de réparer la bagnole, et à l'époque c'était un coup parce que je roulais dans des bagnoles de merde, évidemment. J'achetais des bagnoles pas chères parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter des bagnoles chères, donc je roulais avec des Peugeot 406 qui étaient des très très bonnes voitures mais qui avaient 500 000 km si tu veux, donc il y avait toujours une couille. Donc j'étais tout le temps dans la dépense. Bon bref. Et si vous voulez, il y a eu l'aspect, grosso modo, je vais être grivois, je vais être vulgaire et je vais être très simpliste, mais c'est quand même une forme de réalité, c'est une part de réalité. Grosso modo, c'était le logis contre le boule. Mais c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Je me mets sous votre protection, Seigneur. Mais au moins, au Moyen-Âge, il y avait ce côté-là. « Oh Seigneur, puis-je me mettre sous votre protection ?» Et après, tu la cartonnes et elle est à l'abri derrière les remparts. Bon, mais c'était un peu ça le principe. D'accord, c'était un peu ça le principe. Elle prenait des retroussées et elle dormait... elle avait un toit pour dormir. Putain. Mais il y avait des sentiments. Alors, je n'étais pas amoureux du tout. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à tomber amoureux des femmes pendant très longtemps parce que... J'ai eu des rapports très compliqués avec ma mère, et donc du coup, pour moi, la femme est quelque chose de... Je me méfie énormément des femmes. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes à tomber amoureux des femmes. Donc je nourrissais des sentiments à leur égard de respect, d'envie de protection, de comment ça s'appelle, de... Comment je pourrais dire ça ? Des sentiments de... Beaucoup d'affection, mais l'amour était très, très, très compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à l'enclencher, je n'arrivais pas à le ressentir parce que je me méfiais énormément des femmes du fait de la relation que j'ai eue avec ma mère qui a été terrible. Donc, si vous voulez, j'ai eu des rapports extrêmement violents et conflictuels avec ma mère. Donc, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai toujours respecté les femmes, même si là, je fais le mariole en podcast, je me suis toujours très bien comporté avec les femmes. J'étais pas un type qui trompait, j'étais pas un type qui était violent, mais... Par contre, ayant été élevé principalement par mes grands-parents étant petit, enfin, ayant été beaucoup chez mes grands-parents, j'ai été élevé par mes parents, mais j'étais beaucoup, beaucoup chez mes grands-parents, surtout au début de ma vie, j'ai beaucoup été influencé par mes grands-parents et leur fonctionnement. Et donc, en fait, j'ai gardé une vision très conservatrice du couple. Très, très, très conservatrice, avec, il faut le dire, sa dose de machisme méditerranéen espagnol. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que mon grand-père appelait ma grand-mère « mujer », qui veut dire « femme ». Voilà. Et elle faisait la vaisselle, la cuisine, et lui faisait la sieste. Donc, alors, j'en étais pas à ce point-là, mais quand même, la femme est quand même au service de l'homme. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Et pas au point de ma grand-mère avec mon grand-père, n'exagérons pas, mais quand même. Et donc, si vous voulez... Bon, ben, avec cette gonzesse, c'était quand même... on était un peu là-dessus. C'est-à-dire que... Bon, tu me laisses te trousser de temps en temps dans la même journée. Et en échange, je t'achète... Je te fais plaisir, je t'amène au ciné, on fait des restos. Bon, ben, c'était un peu ça, c'est comme ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Que voulez-vous que je vous dise ? Bon, j'arrête de prendre des pincettes. Hein. Et si vous voulez, bon, ça fonctionnait comme ça. Et un jour... Putain, elle commence à... Donc j'arrivais avec la trique. Alors moi, à ce moment-là, j'étais en arrêt maladie parce que il faut savoir que j'étais... Putain, alors là, j'ouvre des tiroirs, je suis désolé, mais bon, on va prendre le temps, hein, on va prendre le temps aujourd'hui. J'ouvre tiroir sur tiroir, vous me l'excuserez. J'étais pion dans un collège, dans le quartier Bagatelle, au Mirail. Et donc j'étais avec que des femmes, j'avais que des collègues féminines, bon, qui étaient bosseuses, hein, qui étaient très bosseuses. Moi, j'étais pas bosseur du tout. Franchement, j'étais un tire-au-flanc fini, mais j'avais beaucoup d'autorité, et notamment sur les enfants, parce qu'étant à 80% des enfants d'origine subsaharienne ou maghrébine, si vous voulez, quand une femme parle, c'est une chose, quand un homme parle, c'est autre chose. Donc mes collègues qui travaillaient plus que moi, il faut le dire, souffraient énormément, je pense. Si elles écoutent ce podcast, elles diront que non, mais c'est la vérité. Elles souffraient d'avoir moins d'autorité naturelle que moi, tout en travaillant plus. Parce que moi, j'en branlais pas une, je me reposais énormément sur mes collègues. Parce que c'était beaucoup de trucs informatiques, ça me cassait les couilles. Mais par contre, j'arrivais à gérer les gamins et j'étais très autoritaire avec eux. Alors, j'étais autoritaire avec eux parce que j'estimais qu'on doit parler... J'ai été pion dans des collèges de bourgeois et dans des collèges de cité, si vous voulez. Et je parlais de la même manière aux gosses de riches qu'aux petits maghrébins. Parce que j'estimais que la véritable équité, c'est d'avoir le même niveau d'exigence pour les uns et les autres. C'est ça, le véritable respect. C'est ça, en fait, la véritable équité. Et les gens de gauche, c'est l'inverse. Ils vont être très laxistes avec les petits maghrébins et ils vont être ultra violents avec les bourgeois. Donc, en renforçant le sérieux et le bon comportement des bourgeois qui vont leur servir dans leur vie et en laissant les petits rebeux devenir des merdes humaines sans foi ni loi. Voilà, donc à mon avis, elles participaient de l'écroulement de ces petits maghrébins qui avaient besoin que d'une autorité, d'une vraie autorité, et pas d'une autorité de PD à la républicaine, d'une autorité à l'ancienne. Un homme qui leur dit « tu arrêtes, sinon je fais venir ton daron et tu vas prendre des calottes ». Voilà. Donc si vous voulez, en plus c'est toujours pareil, quand vous appelez un père, si vous voulez, quand c'est une femme qui dit « oui, votre fils hein, », le père va prendre la défense du fils, parce qu'en fait c'est une femme qui l'appelle hein, et ça va le stresser. Alors que quand j'appelais les darons pour leur dire « écoutez, là votre fils il se comporte comme une merde », il fallait prendre le truc du côté, là il fait des trucs de PD. Donc là le daron maghrébin arrivé, il mettait d'high-kick à son gosse. Donc c'était la bonne stratégie, c'est-à-dire « attends, là ton gosse, fallait pas donner envie aux parents de donner raison au gosse ». Bon bref. Du coup, elles étaient très vexées que j'en ai rien à branler de pas heurter les gamins. Et si vous voulez, je me suis mis tout le monde à dos parce que j'avais que des collègues féminines. En plus, moi, je continuais à dire ce que je pensais aux gamins. Il y avait une gamine qui m'avait apostrophé à la cantine. J'étais en train de manger. Elle m'avait dit « Bah, tu manges du porc ?» C'était une gamine qui était en sixième, une maghrébine. Et j'avais dit « Écoute, ici, on est dans un pays, ça fait 6 000 ans qu'on mange du cochon. » Donc en fait, on ne s'exclame pas comme ça. Tu as le droit de penser que je suis une sous-merde parce que je mange du cochon. Tu le gardes pour toi, d'accord ? Voilà. Moi, je suis dans le continent de mes ancêtres. Je suis catholique. Je mange du cochon si je veux. Et je le mange à la cantine devant tout le monde. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à ressentir de honte pour ne pas heurter ta culture de maghrébine, de déracinée, d'accord ? Moi, je suis chez moi. Je suis sur mon continent. Je mange du cochon. Je n'ai pas à avoir des commentaires de désapprobation. Si tu n'aimes pas qu'on mange du cochon, tu te casses chez toi. Te casse dans le pays de tes parents. Parce qu'en fait, t'as pas de chez toi. Chez toi, c'est bagatelle de merde, en fait. Tu n'es ni algérienne, ni française, t'es une merde déracinée. Donc ferme ta bouche. Voilà. Bon, ça, je l'avais pas dit, mais c'est ce que je pensais. Donc, si vous voulez, la gamine, elle allait se plaindre au proviseur. Elle a dit, ouais, le pion, il m'a dit que. Donc, ce que je lui avais répondu exactement, c'est « Je mange du cochon si je veux, je suis sur le continent de mes ancêtres. » Alors là, ça, là, évidemment, j'avais été convoqué par le proviseur qui était une merde, un lâche républicain. « Vous n'avez pas à dire ça, vous les renvoyez à leurs origines, gna gna gna. » Elle n'a pas à me dire que je mange du cochon, moi j'avais tenu le coup. Donc évidemment, ils s'étaient tous retournés contre moi. On m'avait crevé les pneus dans le parking parce que mes collègues étaient d'extrême gauche. Donc en fait, j'étais dans un milieu, je bossais dans un milieu où l'intégralité des personnes était contre moi, j'étais le nazi, le facho, alors qu'à l'époque, vraiment, j'avais vraiment une vision, j'étais encore sur traiter tout le monde avec équité. J'avais vraiment envie que les petits maghrébins soient traités pareil que les bourgeois, et j'avais le même niveau d'exigence, et d'ailleurs, je leur rendais beaucoup plus service en ayant le même niveau d'exigence avec eux, et surtout, à l'époque, j'avais déjà mon indépendance de pensée, et je n'acceptais pas qu'un enfant de 12 ans de confession musulmane me fasse une réflexion sur mes pratiques alimentaires. Voilà, ça je ne supporte pas. Tu es déraciné, tu rases les murs, tu fermes ta gueule. D'accord ? T'es pas chez toi, tu as abandonné tes morts. C'est pas grave d'abandonner ses morts. Hein. Si tu viens dans un pays pour faire de ce pays le tien, c'est pas grave d'avoir laissé les morts là où tu les as laissés, c'est-à-dire en Algérie ou je sais pas où. Si tu continues à vouloir avoir la fierté d'être algérien en France, ferme ta gueule parce que t'as laissé tes morts. Ferme ta gueule parce que la tombe de ton grand-père, tu sais pas dans quel état elle est. Donc tu fermes ta gueule. Il n'y a pas d'histoire de nif, de fierté, tu es une merde. D'accord ? Tu as laissé tes morts à un endroit et tu sais pas dans quel état le cimetière où sont enterrés tes morts. Tu fermes ta gueule, tu fais pas des réflexions. Soit tu deviens un Français et en fait tes morts ils sont en France. Donc en fait c'est tous les morts de la France qui deviennent tes morts à toi. D'accord? Et dans ce cas-là, eh ben, respect, bravo. Tu es devenu français. Donc, en fait, les poilus qui sont enterrés en France, ça devient tes morts. Si jamais ces morts-là ne sont pas tes morts, tu fermes ta gueule parce que tu as abandonné les tiens qui sont restés dans le pays d'où tu viens. D'accord? Voilà. Ça, c'est le béaba. Moi, je veux plus entendre de African Pride et de Maghrébian Pride si tu as laissé tes morts au bled. D'accord? Ça ne se faisait pas ça avant. Dans les vraies sociétés traditionnelles, tu n'abandonnes pas la terre où sont enterrés tes ancêtres. Voilà. Et si tu le fais, c'est que dans la terre où tu viens pour semer, tu viens pour planter, tu viens pour fructifier. Tu viens pas pour casser les couilles et faire des réflexions postcoloniales de merde. D'accord? Donc comment s'appelle l'indigéniste, les indigènes de la République, là, les Médines qui viennent nous faire des rap. Médine, il a abandonné ses morts en Algérie. Médine, c'est un type, hein, d'accord? Il a laissé la tombe de ses ancêtres en Algérie comme une merde. Comme une merde. Comme un bédouin. Un bédouin, ça voyage, ça n'a pas d'adresse. Où sont tes morts? Dans quel état est la tombe de ton arrière-grand-père, Médine, au lieu de venir faire nous rap, là, en parlant à voix haute, en levant le menton, ils sont où tes morts? Moi, je vis à 500 mètres de mes morts. Moi, la maison où je vis, là, dans mon village en Espagne, je suis à 500 mètres du cimetière hein, où il y a 5 générations de mes ancêtres qui sont enterrés. Donc, viens pas faire le malin à faire des vidéos, là, avec le menton levé. Tu as abandonné tes morts. Bédouin, chamelier que tu es, chamelier que tu es. Faites pas les fiers, je sais pas quoi, le NIF algérien, je sais pas quoi. Vous avez abandonné vos morts. Fermez vos gueules tous. Fermeture de la parenthèse. Chamelier va. Chamelier, vendeur de chameaux à l'unité va. Espèce de putain à marcher en chaussons dans le désert pour vendre du chameau. Va. Et après ça vient faire le show, je sais pas quoi, des colonels. T'es pas français. Si t'es français, tu aimes la France, tu pisses pas sur la fleur de lys. Tu pisses pas sur la fleur de lys. Chamelier. Bref. Donc si vous voulez, je fais la parenthèse, donc le truc n'était pas passé, et moi j'ai toujours eu, d'accord, je ne suis pas un individu républicain, je suis un catholique, mon pays a été le tombeau de l'islam pendant 800 ans, d'accord, l'Espagne a été le tombeau de l'islam comme la Serbie l'a été, d'accord, comme l'Autriche l'a été, d'accord, il y a des pays comme ça, l'islam arrive, et en fait non, en fait au tombeau, voilà. Donc ça a pris 8 siècles, mais en fait ils ont dégagé. Ça a pris 8 siècles, mais aujourd'hui, on est le premier consommateur de cochons en Europe, d'accord? Ça a pris 8 siècles, mais aujourd'hui, en septembre, là, dans moins de 4 jours, il y a la fête de Moros y Cristianos dans le village d'à côté. Et on est en 2024 et ça continue. Il n'y a aucun gouvernement de gauche qui va le supprimer, ça. Voilà. Donc, si vous voulez, je me laisse pas faire, même pas par rapport à moi, par rapport à mes ancêtres, en fait. Donc, une gamine de 12 ans, sans foi ni loi, avec ses valises à la main, qui est là depuis une génération, elle me fait pas de commentaires sur mes trucs alimentaires. Donc, j'avais pas laissé passer. Donc, du coup, je m'étais embrouillé avec tout le monde. J'avais été mis au banc. Et du coup, je m'étais foutu en arrêt maladie, parce qu'en fait, il me crevait les pneus, j'avais pas les moyens de changer des pneus tous les 2 jours. Donc, je m'étais foutu en arrêt maladie, et j'avais passé la fin de l'année, chez moi, dans mon appartement, à Toulouse, à jouer à la console. Parce que hors de question de me faire emmerder. Les mecs voulaient que je fasse des excuses, mais nique ta race, nique ta race. Quelles excuses? Vous allez me mettre à genoux, moi? Islam, ça veut dire soumission. Hein. Moi, je me mets pas à genoux. Hein. Les Médines et compagnie, là, les Saïf, je sais pas quoi, là, vous me mettrez pas à genoux. Vous me mettrez pas à genoux. Ça finira comme ça a fini à Grenade hein, en 1492. Hein. D'accord? Voilà. Donc, j'avais passé, excusez-moi, je me suis énervé, mais cet épisode me fait repenser à ça. Donc j'avais passé les 2 derniers mois de l'année chez moi à Toulouse. Donc là j'avais rien à faire. J'allais à la boxe, donc j'avais des montées de testo, je jouais à Mass Effect, et à 15h j'avais la trique. J'avais la trique parce que t'es en pleine digestion, t'as 27 balais, testo au max, j'avais le barreau. Donc je me levais et j'allais voir ma gonzesse, donc la fameuse avec qui je vivais, et elle était en train de préparer un concours qu'elle avait déjà raté 3 fois, parce qu'elle voulait avoir le CAPES, elle avait raté 3 fois le CAPES, et si vous voulez, bon, moi ça faisait c'était la deuxième année où j'étais avec elle, donc l'année précédente, pendant qu'elle révisait le CAPES, c'était chiant en fait, parce qu'elle faisait que ça et tout, bon moi je la laissais faire, mais ça me cassait les couilles, parce qu'en fait j'avais aucune interaction avec elle, elle était dans les fiches et tout, ça me cassait les couilles, mais bon, je me disais c'est pour son avenir, donc allez, bosse pour ton CAPES, c'est pas grave. Et donc du coup, j'avais la trique, voilà. J'avais la trique et je me levais, quand j'avais trop la trique et que j'en pouvais plus, quand c'était là depuis une demi-heure, je me levais. Et en fait, elle était en train de bosser et je venais lui piquer le dos. Je venais lui piquer le dos avec la trique, hein, c'est le mot qu'on utilise, comme avec les animaux. Donc je mettais des petits coups de trique, pas électrique, mais des petits coups de trique, pour lui dire c'est l'heure, hop, et oh. Tu sais, comme quand tu tires la manche de ta daronne là, dans les années 90 pour aller faire les courses, là. Et oh, et hop, et oh, attends, mais regarde l'heure là. Mais attends, mais c'est l'heure de la péter là. Non, mais j'étais un enculé, hein, c'était horrible. Bon, bref. Donc, hop, je m'approchais d'un truc, je passais mes mains donc sous son, je passais mes mains sous son, sous ses habits, et je commençais à malaxer les loches pour indiquer que là, parce qu'elle comprenait pas avec les avec les petits coups de trique, donc je passais les mains tu sais, en malaxant les loches pour lui dire c'est l'heure là, c'est l'heure. C'est l'heure de la péter là. Donc du coup, non mais attends, je suis en train de réviser tout ça et j'étais sur la béquille. Hein. On ne baisait pas à cause du capes. Bon, sachant que j'étais habitué à avoir un gros rythme toute l'année. Là, l'aspect dormir sur la béquille un jour, deux jours, trois jours. Et plus ça allait, plus elle devenait dépressive parce qu'elle n'avait pas le capes, ça lui cassait les couilles et tout. Et à un moment, il y a commencé à y avoir un jour, deux jours, trois jours, quatre jours qui sont passés sans qu'on baise. Et puis une semaine, alors qu'au début de notre relation, franchement, c'était plusieurs fois par jour, tu vois. Et là, je commence à me dire, attends. Je suis à la maison. Là, ça fait deux mois que je dors sur la béquille, parce que c'était passé deux mois hein, sans qu'on ait de rapport sexuel. Donc là, je commençais à devenir fou, moi. Du moment qu'elle avait commencé à réviser le capes, j'étais là, enculé, attends. Attends, là j'ai les couilles pleines, je paye le chauffage, la bagnole, l'essence, les restos, les comment ça s'appelle, les charges. En plus j'avais des charges extrêmement chères là où j'étais à Toulouse dans l'appartement que j'avais, je payais 360 euros par mois, enfin c'était un truc de fils de pute alors que j'étais propriétaire. Donc je payais des charges monumentales, je payais, je dis attends, si tu veux, un homme, il n'a pas une gonzesse avec lui pour la discussion. En fait, si j'ai envie d'avoir une discussion, j'appelle mes potes et on va rigoler. On va parler de catch, de Predator, on va se demander qu'est-ce qu'il gagne entre un rhinocéros et un 4x4, c'est un combat, tu vois. Mais on va pas, si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour baiser, je peux pas baiser avec mes potes, en fait. Je peux pas prendre meilleur ami et lui dire, ah putain, et lui malaxer les loches et y aller, tu vois. Je peux pas faire ça. Donc en fait, excuse-moi, mais ton rôle, c'est qu'à un moment... tu dois faire comme dans la NFL, c'est-à-dire être receveur, tu vois. Tu dois être receveur à un moment. Et elle recevait pas. Et je me disais, attends. Donc là, tu commences à te dire, attends. Donc il y a ça, moi j'amène ça. Ouais, j'amène le logement, le confort. Tu amènes quoi, toi? Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, elle amenait un truc, c'était... Ah oui, son cul, c'est tout. Parce qu'en plus, bon, elle faisait pas trop à bouffer. Là, je me dis, attends. Est-ce que je me ferais pas enculer? J'avais pas, jusqu'à ce moment-là, j'avais pas visualisé que c'était cette violence-là, en fait. Que j'amenais 90% de ce qui faisait le couple et qu'elle en amenait 10% qui était, en fait, le devoir conjugal. Donc là, je me suis mis à devenir un protestant. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le côté catho paternaliste. Tiens, je pourvois. Là, il y avait le côté, mais attends, meuf, t'es pas là. T'es pas là pour réviser. T'es pas là uniquement que pour réviser, en fait. Tu n'es pas là pour... Non, t'es là pour de temps en temps prendre des cartouches, en fait. C'est le pacte. C'est le pacte qu'on a scellé dans la grotte il y a 300 000 ans, là, en fait. Ça, on a commencé comme ça, si tu veux. C'est t'as de la viande parce que t'as un vagin, en fait. T'as un utérus. La viande, c'est un échange de... Voilà. C'est ça, en fait. Hein. Ce que je lui donnais, c'était du steak de mammouth sous forme de essence, resto, logement, en fait. Donc, je me suis dit, oula. Et là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu. Alors, je n'ai pas fait le bourrin parce que là, je me présente comme un énorme bourrin, mais je lui ai parlé. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu n'as plus envie de moi? Est-ce que non, mais c'est pas ça, mais ça me prend la tête. Gna. Et moi, je devenais fou, en fait. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on aille voir quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que bon. Et putain, elle ne me donnait pas de réponse. Et j'avais les couilles qui gonflaient. Je me suis dit, Là, je m'appelle Montgolfier, là. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu remplaces l'hélium par le foutre, je m'appelle Montgolfier, en fait. Je crois que je vais accrocher une nacelle et je vais faire des voyages aériens là, avec mes burnes parce que je vais éclater, là. Là. Je suis comme un compteur à gaz qu'on a oublié au soleil au mois d'août, là. Tu vois, là, ça commence à travailler, ça va péter, là. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, j'ai toujours été quelqu'un de fidèle. Hein. À ce moment-là, je me faisais draguer par une gonzesse hein, qui travaille à ERA Immobilier à Toulouse. Hein. Bon... Voilà quoi. Bon, il y avait tout quoi. Hein. Elle avait la classe, elle était jolie, des pare-chocs de malade. un boule, tu sais pas si une table basse, il faut poser des trucs dessus, enfin c'était incroyable. Et donc si tu veux, bon, elle me parlait, elle me travaillait, elle me faisait du rentre-dedans, du rentre-dedans, du rentre-dedans, non, putain. Et moi j'étais là, je lui dis, allez, reste fidèle, parce que ça c'est toujours un truc auquel j'ai prêté attention, c'est vraiment de ne pas faire aux femmes ce que j'aimerais pas qu'elles me fassent. Si une femme me trompe, moi ça me rendrait fou. Donc je me suis dit, ne jamais tromper une femme. Et donc je luttais, parce que je reste quand même un homme, donc fatalement, quand tu as envie, c'est à une autre femme qui te travaille, ça devient d'autant plus difficile, voilà. Moi, si vous voulez, si je me fais vidanger régulièrement, il n'y a aucun problème. Je m'en branle. Les autres femmes, j'ai rien à foutre. Mais si je ne me fais pas vidanger, si vous voulez, il y a un moment où ça monte. D'accord ? Je ne suis pas un individu soja. Moi, j'ai un taux de testo. C'est qu'à un moment, il faut que ça sorte. Et la branlette, ça va 2 minutes, j'ai plus 14 ans, en fait. Donc, si vous voulez, ça gonflait. L'autre, elle me travaillait. Et à un moment, si vous voulez, l'autre gonzesse, on discutait sur Facebook et elle me dit « Putain, ça serait génial de se faire un week-end ». Bon, j'avais bien compris ce qu'elle voulait, parce que se faire un week-end, oui, d'accord, on va aller au bord du lac, on va pas beaucoup le voir, le lac, bref. Et donc, du coup, j'avais répondu, parce qu'il faut, être honnête, je me laissais l'option pour plus tard, je me disais « Bon, là, l'autre, s'il faut, elle va me faire un an sans baiser, à un moment, il va falloir que je dégorge ». Donc, je lui avais dit « Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être bien, un de ces quatre, voilà ». J'avais répondu ça. Et figurez-vous que j'avais laissé mon ordinateur ouvert, avec mon Facebook ouvert. Et je pense que j'ai fait ça, et je suis parti de chez moi, j'ai laissé mon ordinateur ouvert, avec la discussion ouverte, en partant de chez moi, avec ma gonzesse dans l'appartement. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme toutes les femmes, elle est allée lire mes discussions Facebook. Donc, elle a rien trouvé à part ce truc-là. Et moi, je suis allé au cinéma, et j'ai éteint mon portable. Et je suis allé me faire un film parce que j'en pouvais plus, j'avais les couilles pleines, il fallait que je m'aère l'esprit, quoi. Donc je suis parti au Cinoche, parce qu'elle était en train de réviser, elle faisait que ça toute la journée, de 8h à minuit. Donc si vous voulez, j'avais pas d'interaction avec elle, je suis parti au cinéma et j'ai laissé cette discussion ouverte. Donc la gonzesse ouvre mon ordinateur et découvre la discussion pendant que j'étais au ciné avec le téléphone éteint. Je sors du cinéma, je rallume mon téléphone. Et là, il y a les messages qui commencent à arriver. « 36 messages en absence. Je ne sais plus combien d'appels et de messages sur la messagerie en absence. Enfin, un truc, j'avais reçu un PDF de 600 pages orales par message où je me faisais traiter tous les noms, t'es une merde et tout. J'ouvre le dernier message et j'entends... Alors, j'étais en train de rouler à balle avec ma bagnole pour aller donner des explications quand même. Pour lui dire, bon, oui, c'est vrai, mais si tu veux, ça fait 2 mois que je dors sur la béquille. Donc, j'ai foncé chez moi. J'ai roulé, je me rappelle, avec ma Peugeot qui était éclatée. J'ai roulé sur le périph' comme un triseau, quoi. J'arrive en bas de chez moi et je vois des affaires à moi tomber de ma propre fenêtre. Je vivais à l'époque au 5e étage, à Pattedois, 116 avenue de Grande-Bretagne. Paf, je vois mes habits qui tombent et je vois en bas de chez moi des Roms en train de mettre ses affaires dans des poches. Dans des sacs plastiques, excusez-moi. Les poches, c'est à Toulouse. Dans des sacs plastiques. Je descends de ma bagnole. Bon, à l'époque, je faisais de la compétition boxe anglaise, donc j'étais en très très bonne forme. Et puis, je faisais du sport comme un débile mental. Je descends de la bagnole, je dis au Roumain, c'est mes habits, je suis en train de me disputer avec ma gonzesse, laisse ça. Il a vu ma tête, il a vu mon style, il a compris, il a laissé la poche en me disant un truc de Roumain qui a peur, de Rome pardon, qui a peur, et je récupère mes affaires, et pendant que je mets mes affaires, je vois des trucs à moi qui continuent à sauter par la fenêtre. Dans la rue, je commence à gueuler, arrête, salope, arrête de jeter mes trucs par la fenêtre. Tout le monde me regarde dans la rue, tous les gens que je connaissais, tout ça. Je vois les trucs qui tombent et tout, je me dis enculé, faut que j'arrête d'être en bas, faut que j'aille en haut parce que j'ai plein d'affaires, elle va tout jeter un par un et tant pis. Donc je prends mes affaires, je les fous dans l'ascenseur, je monte à l'étage. L'ascenseur ne marche pas. Je descends mes poches, je les mets dans le local poubelle. Je monte à pied, j'arrive essoufflé et je vois la gonzesse qui jette mes affaires. Et ouais, j'ai vu que t'as parlé à une telle sur Facebook, salopard, tu me trompes, gna gna, tout ça et tout. Bon, moi là, j'essaie de mettre du rationnel. Je dis, attends, ça, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Oui, je parle avec une autre gonzesse, j'en peux plus, j'ai les couilles pleines. Tu t'occupes plus de moi. Ouais, salopard. Là, elle voulait pas rationaliser. Donc, c'est je suis l'enculé qui la trompe. Voilà. Là, il n'y a pas de. Pour elle, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Là, je la vois jeter des trucs à moi qui étaient précieux, des chemises et tout à l'époque. J'avais pas non plus des milliers des cents. Donc, si vous voulez, je voyais des affaires à moi qui partaient par la fenêtre à pattes d'oie dans un quartier où t'as que des Roms, des Gitans, des Arabes. Donc, je me suis dit, je vais redescendre en bas, les choses auront disparu parce que les choses disparaissaient quand même assez vite. Il y avait un local vélo, on se faisait tout le temps voler. Une fois, j'étais tombé sur deux rebeux qui étaient en train de voler. Bon, bref. J'étais en train parce que j'étais en train de penser à tout ça. J'étais en train de penser au mec qui est en train de voler, à la nationalité, au profil des mecs qui est en train de voler mes trucs en bas. Je me suis dit, putain, des chemises à moi qui vont finir sur des mecs qui ont des patronymes de l'autre côté de la Méditerranée, c'était compliqué pour moi. Franchement, c'était compliqué. Donc là, ça monte. Là, ça monte. Et là, je m'approche d'elle. Je ferme la fenêtre. Elle rouvre la fenêtre. Je referme la fenêtre. Elle rouvre la fenêtre. Je referme la fenêtre très violemment. Je pète le carreau. Elle ouvre la fenêtre de l'autre côté de l'appartement pour jeter les trucs par l'autre côté de l'appartement. Donc, qui donne sur une cour intérieure. Il y a tous mes voisins qui voient tout ce qui se passe. Donc, je vous laisse imaginer la honte. Arrête, hein, arrête. Hein. Je la suis, je dis arrête, arrête, s'il te plaît, arrête, arrête, s'il te plaît, arrête, viens discuter au salon, arrête, arrête. Elle continue, donc au bout d'un moment, je lui mets les mains sur les épaules, je lui dis arrête-toi, arrête-toi. Mais d'une voix calme, j'essaie de faire en sorte que ça redescende, arrête-toi, ça va mal finir, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Vous connaissez ça, arrête-toi. Et ça continue, et ça continue. Donc je lui pose les mains sur l'épaule, et là elle se met à crier, ah! Là, j'avais des images de talibans en train de fouetter des gonzesses avec des fils électriques dans des stades, en fait. Et je me suis dit, ah, d'accord, ok, c'est à cause de ça. D'accord. Et là, tout d'un coup, ils m'ont paru sympathiques. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, c'est eux les gentils. Donc, là, la gonzesse, inarrêtable, elle pousse des cris. Les voisins, j'entends les portes qui commencent à s'ouvrir dans le couloir. Je ferme la fenêtre de la chambre. Elle retourne là où la fenêtre était cassée. Elle continue à jeter mes affaires. Arrête-toi. Arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi. Et là, je prenais sur moi. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais des sparring avec des Congolais, avec des mecs de l'Est. Tu sais, tu fais des sparring avec des types de l'Est, tu sais. Tu rentres à la maison, tu te fais casser les couilles par une gonzesse de 1,52 m. Et là, tu peux pas faire de gauche-gauche-droite. Tu vois. Crochet bras, tu peux pas. Là, toutes tes gamètes, ça sert à rien. Là, il faut être pédagogue. Faut être pédagogue, t'es plein de testo, tu baisses pas depuis 2 mois, puis faut être pédagogue. Oh, c'est pas mal comme torture ça. Mais je préfère que tu m'enfonces des aiguilles sous les ongles parce que là vraiment c'est cette torture-là, elle est très très complexe quand même. Donc la gonzesse continue, ça putain. À un moment, je commence à crier, arrête-toi! Parce que là j'en pouvais plus. Tu arrêtes! Ah tu me cries dessus! Ah tu me cries, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper? Tu vas me taper? Oh, enculé de toi! Espèce de sous-démon du quatrième niveau, du dernier niveau de l'enfer, espèce de salope. Putain de salope. Espèce d'énorme poufiasse de merde. Salope de gonzesse de merde. Moi, enculé de ta mère, la pute. Et là, je commence à me mettre. J'en pouvais tellement plus, j'étais dans une telle détresse. En fait, je lui prends le bras très fort. Et en fait, je la tourne vers moi et je me mets des patates tout seul dans la gueule avec ma main droite. Donc, je la tiens avec la main gauche. Et je me mets des patates. Et en fait, je me mets des patates de toutes les forces. Et là, j'ai le visage qui commençait à enfler. Et elle commence à voir ça. Et en fait, elle était choquée. Elle était choquée parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça, ça a été toujours mon cheat code. Quand une dispute va trop loin avec une gonzesse, je me mets des patates dans la gueule. Et alarme! Alarme! Et bam! Et tiens ce que tu me fais. Et je disais, regarde ce que tu me fais à l'intérieur. Je te le montre physiquement ce que tu me fais à l'intérieur. Bam! Bam! Et j'avais les arcades qui commençaient à gonfler. J'avais la gueule qui commençait à. J'y allais de toutes mes forces. En fait, je me faisais ce que j'avais envie de lui faire. Parce que je me dis, si je lui fais ça à elle, je l'éclate. Elle faisait 60 kilos. J'en faisais 98 à l'époque. J'étais surentraîné. Si je lui mets une patate, mais je la tue. Non, et puis en plus, il y avait le côté. minorité visible. Donc en plus, si t'as une dispute conjugale et que tu mets une patate à une minorité visible, c'est compliqué. D'accord ? Tu passes vraiment pour un putain de nazi au tribunal et là tu prends. Donc j'avais pas envie de tomber dans le blanc qui a frappé sa gonzesse noire. Donc là, paf, 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 je me mettais des coups dans la gueule. Et la gonzesse était choquée, mais lâche-moi, 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 bam, bam, bam. Et là, en fait, ça s'est arrêté, elle a arrêté de jeter mes habits. Bon, moi, j'avais la gueule gonflée, j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Et là, je lui dis, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et donc, en fait, ah ouais, tu veux que je me calme? Et ma maman, nanana, 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 elle commence à m'enchaîner et je lui dis, attends, attends, laisse-moi répondre. Tiens, elle me laissait pas répondre. C'était un flux continu de mots. Et papa, 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 et dans mon cerveau, ça allait tac, 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 tac. J'avais mon putain de lobe frontal suivi qu'on opère là chez les psychopathes, là, tu vois. Ça, ça tapait dedans. Boum, boum, boum. Les vibrations des mots, là, dans mon cerveau, c'était pam, 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 pam. J'entendais plus les mots, je voyais des gourdins lui fendre le crâne en fait. Et elle m'enchaînait, elle m'enchaînait, elle m'enchaînait, je pouvais pas me placer. Donc au bout d'un moment, je change de pièce. Elle me suit. Je vais dans la chambre. Il n'y avait pas 15 pièces, il y en avait 3. Il y en avait 4 avec la cuisine. Je vais dans la chambre. Papa, papa, papa. Ah ouais, tu t'en vas. Doucement. Il y a les voisins qui entendent. Parle doucement. Et elle continue. Les voisins, ils entendaient. Pam, 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 pam. Mon cortex préfrontal, je sais pas quelle est la partie du cerveau qui est chargée de traiter les logorées des meufs, mais j'avais l'impression que c'était compilation de dance 1990. Boum, 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 ça tapait comme ça. Là, boum, 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 boum. Enculé, ça montait, 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 ça montait. Je vais dans la cuisine, elle me suit. Ah, tu t'en vas? Cuisine, je retourne au salon. Ah, tu te caches, mais t'es un lâche, t'es une espèce de lâche. Nanana. Enculé, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Calme-toi, les voisins nous entendent. Et elle continue à faire un scandale. Et papa, mais papa, à un moment, j'ai mis un coup de boule dans une porte, j'ai cru que je m'assommais tout seul. Heureusement, c'était une porte qui était en contreplaqué, c'était les portes de merde. Donc j'ai enfoncé la porte, je me suis fait une énorme cicatrice sur le crâne. Là, j'ai rentré ma gueule dans la porte. Et en fait, je me suis rappelé que j'étais le propriétaire de ce putain d'appartement. Il y a un moment où je me suis dit, mais attends. Mais ça fait 2 ans qu'elle dort à l'œil ici. Et là, je me fais enchaîner, mais je suis devenu une merde. Là, je me fais mal parler, c'est infernal. Donc, j'ai pris la gonzesse et je lui ai fait un truc d'enculé. Je déteste faire ça. Je l'ai foutu dehors. Elle a tambouriné sur la porte, elle a gueulé. Bon, il y a un keuk qui est venu. Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Le mec avait toujours rêvé de la sauter. Là, il est venu, évidemment, commencer à lui donner des conseils. Bon, en comprenant pas que la même chose qui... C'est-à-dire que les meufs sont attirées par la testo. Donc, en fait, elles t'en veulent d'être testo, mais au fond d'elles, elles aiment ça. Donc, en fait, jamais elle baisera avec le mec qui vient la réconcilier. Donc, l'autre, il était venu, je l'ai entendu discuter avec elle devant la porte. Et ouais, mais gna gna gna. Et puis, en plus, bon, bref, je voyais que le mec avançait les pions et tout. J'en avais pris la branlée. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, elle va dégager, en fait. Ça suffit. Donc, je me suis dit, je vais me séparer d'elle. J'ai 27 balais, je suis propriétaire, je suis en forme physiquement, tu me casses les couilles, next. Voilà, next. Et deux semaines après, j'ai trouvé la femme avec qui je me suis marié pendant 6 ans. Voilà. Donc ça a été 2 semaines après ma rupture avec l'autre meuf. Donc si vous voulez, la technique, ça a été de se faire mal à soi-même. Parce que quelqu'un de plus faible que moi, quelqu'un avec moins de patience, quelqu'un qui a des gros problèmes dans la vie, quelqu'un qui est à bout, si vous voulez, si à ce moment-là, au bout de X minutes de jet de vêtements par la fenêtre, de meuf qui te poursuit, de toute façon, si t'as un peu de testo, au bout d'un moment, ça monte. Et après, il y a des mecs qui sont capables de le contrôler ou pas. Moi, heureusement, j'ai été élevé dans une famille où quand même, on a une très grande considération pour la femme, le respect des membres de la famille, tout ça. Donc, je me suis abstenu, je me suis fait du mal à moi-même, en fait. Je fais du mal à moi-même, voilà. Et je me suis séparé de cette meuf, et je l'ai envoyé se faire foutre. Et après, ben, elle a découvert le loyer. Elle a découvert le loyer, elle a découvert ce que c'était que payer un loyer, elle a découvert ce que c'était qu'être indépendante. Donc elle s'est foutue dans une espèce de squat. Bon, bref, mais ça a été la dégringolade, en fait. Ça a été la dégringolade. Et bon, après, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me faire du mal, tout ça et tout. Mais bon, moi, j'ai refait ma vie à côté. Et voilà. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, que... Sans le valider, je comprends qu'il y ait des hommes qui en puissent plus, en fait. Alors, j'imagine Raymond de Toulouse qui se fait casser des couilles comme ça, c'est pas les vêtements qui passent par la fenêtre. Je vous fais pas un dessin, d'accord ? Qui c'est qui passe par la fenêtre ? Alors, il y a le haut conseiller déjà parce qu'il a une intonation de voix qui stresse. Hein. Lui, il passe par la fenêtre. Hein. Dites-moi, monsieur le haut conseiller. Il y a ça, puis il y a la gonzesse après. Juste après, il y a la gonzesse. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, aussi, il faudrait rétablir un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter les gonzesses par la fenêtre, hein, mais il ne faut pas jeter les habits non plus par la fenêtre. Il faut que les femmes se conscientisent et se. Voilà. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est quand une femme a dépassé les bornes, quand une femme est allée trop loin, il faut avoir la force de le faire. Quand les femmes vont trop loin, il faut être capable de les. Il faut être capable de les triquer. Il faut être capable de leur dire c'est fini. T'es allé trop loin. Même si vous allez mettre du temps à retrouver une copine, même si vous aviez vos habitudes, même si quand une femme va trop loin, et c'est pareil pour vous les femmes, hein, quand un homme va trop loin, quand un homme lève la main sur vous, quand un homme vous manque de respect trop de fois, il faut avoir le courage de se séparer. Combien de femmes se font taper dessus et restent éperdument amoureuses de l'homme avec qui elles sont? Quand on vous a manqué de respect, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le conseil que je vous donne, il faut se casser. Il faut maintenir des standards très hauts. Il ne faut pas accepter que quelqu'un puisse aller aussi loin avec vous que ça. C'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas acceptable. On n'a pas accepté ça. Il y a des limites dans un couple. Après, il appartient à chacun de décider s'il veut pardonner ou pas. Mais quand ça se reproduit et se reproduit encore, il ne faut pas accepter ça. Il faut maintenir vos standards très hauts, il faut qu'on vous respecte. Si, en fait, c'est très simple, si vous laissez les gens vous manquer de respect, vous n'arriverez jamais vous-même à vous respecter suffisamment. Et moi, toute ma vie, que ce soit avec la petite maghrébine du self qui m'avait fait une réflexion sur mon alimentation, que ce soit avec mes patrons, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans mon couple, je ne me suis jamais laissé marcher sur les couilles. Je ne me suis jamais laissé marcher sur les couilles, ni par mon gouvernement, ni par Christian Régal, ni par Jean-Michel Baillé, ni par les francs-maçons, ni par les gonzesses, ni par les arabes. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que je vis dans une hacienda, dans le village de mes ancêtres, et que je suis en liberté, et que j'ai une vie de liberté. Parce que moi, on ne me met pas le collier. On ne me met pas la menace de « tu vas perdre ton CDI ». On ne me met pas la menace de « je m'en vais, tu n'auras plus accès à mon cul ». On ne me met pas la menace de tu vas réciter la charada ». La charada, je ne vais pas la réciter. D'accord ? Je vais aller prier en latin dans l'église de mes ancêtres. Voilà. Je ne vais rien réciter du tout. Médine, tout ça là. Je ne vais rien réciter du tout. D'accord ? Je ne vais pas, baisser les yeux quand un patron me manque de respect ou dit de la merde. Et c'est pour ça que j'ai fait que changer de boulot toute ma vie. Vous savez, j'ai fait 7 établissements scolaires en tant que surveillant. J'ai fait Maximilien Sort à Arcueil-Cachan. Enfin, à Cachan. Maximilien Sort à Cachan. J'ai fait le lycée Léonard de Vinci à Bagneux. Lycée technique. J'ai fait le lycée Saint-Sernin à Toulouse. J'ai fait le collège Lalande. J'ai fait le collège, je retiens jamais le blaze, à Bagatelle. Je me rappelle jamais du nom. Je confonds tout le temps. Je confonds tout le temps avec Clément Cizor, mais c'est pas ça. Bon, bref, j'ai fait plusieurs établissements. Je ne me suis jamais, dès que ça se passait mal avec les collègues, et ça se passait tout le temps mal avec les collègues parce que je disais toujours ce que je pensais. D'accord, j'ai jamais dans mais vous le savez bien. Si j'ai fait ce que j'ai fait sur Internet, c'est parce que je ne supportais pas de me taire. J'ai toujours pris le parti de ne pas me trahir, de ne pas trahir ce que je pense. Que ce soit avec les gonzesses, que ce soit au travail, et c'est pour ça que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. D'accord, je me lève à l'heure que je veux, je vis de ce que j'ai envie de faire. Alors c'est pas une vie facile parce qu'il y a les procès, compagnie et tout, mais au moins je suis en liberté. Il y a pas un patron qui vient me dire ce que j'ai à faire. Après, on peut avoir un patron sympa ou être heureux dans son travail. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer le fait d'avoir un patron. Mais personne n'a à vous faire du mal et vous n'avez pas à l'accepter. Si quelqu'un vous fait du mal, vous devez être en capacité de lui rentrer dans la gueule, de lui dire et de changer les choses. Et si ça continue, ne restez pas dans les travaux toxiques. Dieu récompensera toujours votre choix de partir d'un endroit où votre âme elle est tordue. C'est ça qui vous fait choper des cancers, c'est ça qui vous fait choper des maladies, c'est ça qui vous fait avoir des accidents, c'est ça qui vous fait avoir des problèmes médicaux, de la malchance, ce que vous voulez, des cancers, la mauvaise humeur. C'est parce que vous êtes dans des boulots où vous acceptez et vous en avez une part de responsabilité. Je suis obligé de vous dire que vous en avez une part de responsabilité. La liberté, c'est dur. La liberté, c'est la perte de confort. Donc moi, pendant 10 ans, j'ai été dans l'inconfort. Je changeais de boulot tout le temps. Il y avait des moments où je baisais pas parce que il y avait des meufs à qui je ne restais pas parce qu'en fait, elles ne me parlaient pas comme il fallait qu'elles me parlent. Donc du coup, je me séparais, d'accord ? Donc c'était dur émotionnellement, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis le roi de moi. Je suis le seul maître de moi-même. Je suis le seul gardien de mon âme. Voilà. Et il faut absolument que vous compreniez ça. On vit dans une société de malades mentaux parce que les gens acceptent de se faire tordre par des gens qui n'ont pas l'autorité pour le faire. Quand j'étais gosse, c'est que mon daron me mettait des retournées. Mais il avait raison. Il avait raison parce que, en fait, c'était bien de le faire. Et aujourd'hui, je lui suis reconnaissant. Et j'ai accepté ces choses-là. Quand j'étais petit et que mon père me mettait des fessées, d'accord, avec ses gros avant-bras d'anciens joueurs de rugby et de pelote basque, hein, ok, ça piquait, mais je savais que je l'avais mérité. Et avec le temps, je sais que ça m'a aidé à devenir l'homme que je suis devenu. Donc en fait, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir ce côté égo mal placé de « à moi, personne ne me met de fessée » ou « personne ne me… » Moi, quand on a une critique à m'adresser et qu'elle est justifiée, je suis prêt à l'entendre. Par contre, même si 15 personnes font la même critique parce que c'est 15 fils de pute ou c'est 15 esclaves, d'accord ? À lui, il a de l'ego. Moi, des fois, j'ai eu ça, tu vois, parce que je me laissais pas faire. Et t'as 15 personnes qui viennent te voir et qui te disent « Ah ben, dis donc, t'es pas facile. » Et là, tu te dis, tu te remets en question, tu vois. Et c'est vachement dur à un moment de rentrer dans la gueule de 15 personnes et leur dire « Non. » De leur dire « Non, non, non. Vous êtes 15, vous avez tort. » D'accord ? Non, la gamine, elle n'avait pas à me dire ça. Elle n'avait pas à me dire ça. Et t'as 15 personnes qui disent « Mais si, c'est une observation, faut accepter, faut pas le prendre comme ça. » Non, non. Et ça, il y a très, 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 très peu de gens, surtout dans ce pays. Surtout dans ce pays des non-collabos, il y a très 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 peu de gens qui sont capables de prendre 15 personnes à rebours tous les jours au boulot. Très 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 peu. Alors sur Internet, n'en parlons pas, et dans la vraie vie, c'est pareil, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vit le pays qu'on vit, parce qu'en fait, les gens acceptent, ils acceptent, ils acceptent, ils acceptent. Moi, je suis dans un pays, les choses ne se passent pas comme en France. Les Arabes, dans la ville où je vis, ne font pas ce que les Arabes font en France. Parce qu'en fait, il y a la Guardia Civile qui déboule. La Guardia Civile, ils font pas de social. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, plus il y a de l'intransigeance, plus il y a de la tranquillité. Plus il y a de tranquillité. Les Marocains qui sont en Espagne, alors pas à Barcelone, parce que c'est une région de communistes de merde qui a sa propre police, hein, d'accord ? Mais moi, dans la ville à côté de la mienne, là, Albacete, ça file droit. Albacete, tu rentres à 3h du matin en mini-jupe, il n'y a pas de wesh. Déjà, j'ai pas entendu wesh une seule fois en Espagne depuis que je suis arrivé. D'accord ? Voilà. Les mecs, ils ont compris implicitement que c'était pas la peine. Donc, si vous voulez, l'autorité qu'on a, l'exigence qu'on a, fait qu'après, on est tranquille. D'accord ? Les racailles n'ont que la moitié de la faute. C'est la lâcheté de la République et la lâcheté des Français qui leur permet de faire ce qu'ils font. D'accord ? Parce que je vous rappelle que c'est des mecs de 110 kilos en jogging. Hein. C'est des génétiques du désert. Hein. Ça fait 70 kilos tout mouillé. Hein. Les seuls mecs qui sont un peu gaillards, c'est les montagnards, c'est les montagnards berbères ou les mecs de la côte qui sont mélangés avec des Turcs et avec des Européens. Le chamelier de base, c'est 110 kilos tout mouillé. Hein, parce qu'il faut qu'il évolue sous 50 degrés. Et que ça puisse faire la loi chez vous. C'est uniquement parce que vous avez décidé de ne pas leur mettre des trempes et que la police ne peut plus leur mettre des paraplégies. Voilà. C'est uniquement à cause de ça. Et ben, c'est pareil dans le couple. D'accord ? Les femmes sont des Arabes, hein, finalement. Et en fait, si tu ne mets pas de limite, à la fin, tu es une pute. À la fin, c'est toi qui tapines, en fait. Voilà. À la fin, tu te fais mal parler. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est. Voilà. Il y a des individus avec qui il y a de la coopération parce qu'en fait, il y a une volonté de construire quelque chose. Il y a des individus et quel c'est le rapport de force ? Les enfants, les femmes, les maghrébins, voilà, c'est trois catégories de personnes avec qui il faut avoir des rapports de force parce qu'en fait, ça ne marche pas. S'il y a de la gentillesse, ce sera utilisé contre vous. Ou ce sera, s'il y a trop de laxisme, ce sera à votre détriment. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens avec qui vous pouvez avoir des rapports d'équité, de confiance mutuelle pour bâtir quelque chose qui servira à tout le monde. Il y en a, c'est pas possible. Les femmes, malheureusement, à un moment, il y a la volonté de dominer. Donc c'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, il y a toujours une domination de la femme. Parce qu'en fait, on ne lui laisse pas prendre le dessus. Parce qu'en fait, elle le fait comme une racaille de cité. À la fin, elle essaie de vous humilier. Il n'y a pas le moment où il y a le pacte d'équité. Il n'y a jamais ça. Ça, c'est avec vos potes. La bienveillance et tout. Une femme, elle vous respecte tant que vous avez le manche. Si à un moment, vous montrez des signaux de souplesse, ce sera pris exactement comme l'ont pris les Caïras de cité quand ils ont vu à quel point la République les laissait faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc si vous voulez, je fais le parallèle parce que c'est exactement la même chose. Les femmes, vous n'aurez pas un rapport d'horizontalité avec les femmes. Soit vous êtes l'homme, vous êtes au-dessus et vous le lui dites, vous le verbalisez. Je suis l'homme, je prends les décisions. Tu me parles pas comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. On va acheter cette bagnole. Après, vous pouvez prendre conseil. Il y a des femmes qui sont redoutablement bonnes dans les analyses, dans les conseils. Attention. Mais elles vous donnent ce conseil en tant que conseiller, pas en tant que roi. Vous, vous êtes le roi, elle, c'est votre reine, mais ça reste votre conseillère, c'est le roi qui prend les décisions. Après, ce que la reine met dans le cerveau du roi avec intelligence, ça, c'est encore un autre sujet. Et Dieu sait qu'elles y arrivent, les femmes, d'accord ? Et en fait, des fois, c'est pour le meilleur, d'accord ? Mais si vous voulez, une femme n'a pas à commander et à donner le cap et à passer certaines limites dans le couple. Et c'est pareil pour vous, il faut la respecter, il faut remplir votre devoir d'homme, mais c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui donne la direction. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas la femme. Ça veut dire qu'il respecte son rôle naturel, qui n'est pas de commander dans le couple et de commander. Par contre, ce sont des conseillères exceptionnelles. Moi, j'ai été très, très, très bien conseillé par la dernière femme avec qui j'étais en couple, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé par rapport à mes. Ah, attendez, j'ai une petite sonnerie. Qui m'a beaucoup aidé par rapport à beaucoup de choses sur Internet. Elle a été d'un très, très grand secours et de très, très bons conseils. Et elle m'a amélioré sur plein de points. Après, le problème, c'est qu'elle aussi, elle a tenté de prendre le pouvoir. C'est comme le petit singe de Joestar, vous savez, il paraît qu'on peut pas, élever un singe, que ce soit un chimpanzé, un ouistiti ou un gorille, parce qu'en fait, au bout d'un certain moment, il essaie de prendre le pouvoir. Ça, c'est un truc qui revient souvent. On ne peut pas avoir un singe en animal domestique parce qu'il devient tyrannique, en fait. Mais je crois que les femmes, c'est pareil. Je crois que les femmes, quel que soit leur horizon, quel que soit leur culture, au bout d'un moment, elles deviennent ce ouistiti tyrannique, en fait. Voilà. Donc, faut pas faire comme Joestar et finir par lui mettre des patates dans sa cage, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Donc si vous voulez, c'était tout ce long podcast pour vous expliquer que les disputes conjugales doivent vous mener à prendre des décisions, doivent vous mener à dire stop, à dire stop, à dire là t'as dépassé les bornes. Et je ne le regrette pas parce que je me suis séparé de cette gonzesse et après je me suis marié. Alors ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons, mais mon ex-femme par exemple m'a jamais manqué de respect. Mon ex-femme, ça s'est mal passé pour d'autres raisons, mais qui sont pas des raisons qui font que j'ai été insulté ou quoi. Voilà. Donc si vous voulez, eh ben, en fait, en montrant à Dieu que j'avais été intraitable sur un sujet, eh ben, il m'a récompensé en me donnant une femme qui ne m'a pas manqué de respect, parce qu'elle a dû sentir que j'étais déjà passé par la phase de tentative d'humiliation et que j'ai pas laissé faire. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Et moi, je pense que si on était dans une société, encore une fois, mais c'est ce que dit le Raptor dans son podcast, il mine pas. Hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'aller l'écouter. Il est très insistant là-dessus. Les standards sont les standards pour acquérir, si vous voulez, du respect de soi-même par les autres et en premier lieu par vous-même. Il faut l'imposer aux autres. Il faut l'imposer aux autres. Il faut l'exiger des autres. Ou alors ils sortent de votre vie. Ou vous sortez de la leur. Quand vous êtes en position de, par exemple, moi quand j'étais salarié, je pouvais pas sortir mon patron de ma vie. C'est moi qui sortais de la sienne. Mais au moins je me débarrassais de ce pouvoir tyrannique. Je ne me suis jamais laissé mal parler au boulot. Jamais. Des fois, je prenais sur moi parce que c'était pas grave, mais quand ça dépassait une certaine limite, c'était fini. Et j'ai changé 15 fois de société, par exemple, au déménagement, il y avait énormément de respect parce que c'est un milieu ouvrier. Parce que là, quand tu parles mal à quelqu'un, tu parles mal à quelqu'un qui déplace 3 tonnes par jour, si tu veux. Donc, c'est à tes risques et périls. Hein. Le déménageur, moi, je me rappelle, les gens qui parlaient au déménageur, fallait qu'ils leur parlent très, très bien. Fallait qu'ils leur parlent très, très bien. Il y a des métiers comme ça où les gens, il faut leur parler très très bien, en fait. Ça peut débouler sur des trucs pas rigolos. Donc moi, au déménagement, on me parlait très très bien et c'était des boulots, il y avait beaucoup de respect parce qu'on était avec des gens qui savaient ce que c'était. Donc ils te parlaient pas comme une merde, en fait. Et c'est pour ça que je suis resté dans ce boulot assez longtemps. Voilà. Et en revanche, dans la sécurité, j'avais toujours des sous-chefs qui étaient des merdes et tout ça. Bon, ben eux, quand ils me parlaient mal, le dernier boulot de sécurité que j'ai fait, c'était donc il y a une galerie commerciale qui s'est ouverte en 2015 à Verfeuil, non pas à Verfeuil, à côté, à putain comment ça s'appelle, c'est sur la route qui va entre Toulouse et Montauban, un très grand centre commercial, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Bon, ceux qui sont toulousains ils connaissent, c'est un très grand centre commercial qui s'est monté en 2015. Et donc c'est sur la route qui relie Toulouse à Montauban. Bon, ça me reviendra. Le centre commercial de... Bon, je sais plus. Et donc là, j'étais dans une boîte de sécurité qui s'appelait Securitas. Alors moi, j'ai fait RPS, j'ai fait France Gardiennage, j'ai fait plein de boîtes. Alors il y en a dans lesquelles c'est bien passé. Il y en a d'autres dans lesquelles je me suis fait extrêmement mal parler, je me suis cassé. Ça a été le cas chez France Gardiennage, ça a été le cas chez RPS. Je me suis cassé, je les ai envoyés se faire enculer. Voilà. J'ai bossé pour Privilège, super boîte. J'étais très bien traité chez Privilège. Bon, j'ai fait plusieurs trucs. C'est pas systématiquement comme ça que ça se passait. Mais bon, bref. Là, j'étais chez Securitas. Et on m'envoie faire donc, de la sécurité dans une galerie marchande. Donc, j'avais mon talkie-walkie et je déambulais dans la galerie marchande. Parce qu'en fait, il y avait des magasins qui étaient en construction. Donc, c'était pour éviter qu'il y ait des vols, tout ça. Bon. Mais c'était déjà ouvert au public partiellement. Et ils étaient en train de faire les travaux et tout. Et donc, j'avais un espèce de chef qui était un SIAP, on appelle ça un SIAP, donc c'est un chef de la sécurité incendie, qui avait le contrôle sur les caméras et qui me donnait des directives par radio, quoi, par talkie-walkie. Et à un moment, je lui demande un truc, je lui dis, est-ce que je peux rentrer au PC ? Il faut que je sais plus, je devais récupérer mon téléphone que j'avais laissé au PC pour passer un coup de fil, pour prévenir ma compagne que j'allais rentrer à je ne sais plus quelle heure. Mais l'affaire de 2 minutes. Et j'avais des... Non, non, tu restes... Bon. Donc, j'étais resté. Bon, je suis le mec... là, le mec, il abuse parce qu'il se passait rien. On était en pleine construction. Enfin, il y avait 3 pelés intendus. J'étais juste à côté du PC. C'était vraiment l'affaire de 1 minute 30. Allez, j'exagère, de 3 minutes. 1 minute aller, 1 minute, hein, 1 minute retour. Je refais un message. Hein. Ça fonctionne pas. Je refais un autre message. J'avais des réponses très cinglantes. Vous savez ce que j'ai fait ? Et ça a été la dernière fois que j'ai travaillé dans la sécurité. On était en 2015, hein, j'étais pas connu sur Internet, j'avais aucun boulot en vue. Je suis rentré dans le PC. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai posé ma parka, j'ai posé ma radio, j'ai posé mon badge, j'ai posé mon trousseau de clés et je suis parti. J'ai pris ma voiture, je suis rentré dans mon appartement et j'ai fait une sieste. Et je suis pas retourné au boulot. Ils m'ont donné des indemnités de licenciement 2 semaines plus tard. Parce que le mec au PC me parlait mal. Ça a été la dernière mission de sécurité que j'ai faite de ma vie. Et après, je me suis foutu. Donc, j'ai eu droit à du chômage. Je me suis mis au chômage pendant 3 mois. J'ai démarré sur Internet. J'ai commencé à vendre mes BD, mes livres. Et finalement, je suis devenu ce que je suis devenu. Voilà. Mais à ce moment-là, quand j'ai posé mon manteau dans le... C'est juste, je n'acceptais pas qu'un mec me parle mal par radio. Bon, sachant que le profil du mec était un profil agaçant. J'irai pas plus loin, mais j'acceptais pas en fait. J'acceptais pas. Voilà, je me fais pas mal parler par un mec qui a moins d'instruction de moi, qui a moins de culture, je me fais pas parler mal comme ça. Voilà. Donc je me suis cassé. Le mec était un espèce de... Il y avait un accent de racaille, c'était un espèce de mec sous-instruit. Je me suis dit non. Il n'y a pas eu 8 siècles de Reconquista pour que tu me parles mal, avec le patronyme que tu as. Donc je suis parti. Voilà. Ça, par exemple, ça c'est de la vraie... Vous savez, je suis souvent accusé de discrimination, vous savez, tout ce qui est faux, je le suis pas. Ça, pour le coup, c'était de la vraie discrimination. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, non, toi, non. C'est-à-dire que je l'aurais accepté quelqu'un que non, non, toi, tu me parles pas mal, là, je me casse. Toi, t'es dans la catégorie des gens qui peuvent pas me parler mal. C'est comme ça. C'est génétique, presque. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on peut pas trahir. Et quand vous devenez un homme de principe et de monolithisme, d'accord, il y a presque un côté monolithique. Il y a certaines formes de psychorigidité qui sont essentielles. Voilà. Moi, il y a des trucs sur lesquels je suis très très souple. Il y a des gens qui ont le droit de m'insulter parce qu'au final, de là où ils le font et de qui ils sont, je le prends pas mal parce que je vois la vie qu'ils ont, c'est déjà une punition en soi. Mais il y a des personnes pour qui c'est nécessaire de rappeler que non, toi non. Voilà. Toi non. Toi, tu parles pas mal. Donc voilà. Et je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire. Mais après, c'est votre propre code, en fait. Il faut que vous installiez votre propre code. Moi, j'ai un code qui est très, très complexe. Les femmes ont le droit de faire des trucs. Une femme peut un jour me dire certaines choses que j'accepterai, ce sera pas grave. Et il y en a d'autres, je les accepterai pas, alors qu'elle, ça lui paraîtra minime. Vous voyez ? Il y a des gens qui peuvent aller très loin avec moi, je leur pardonne. Il y en a qui je pardonne pas. Parce que déjà, ils viennent pas d'une culture où on a l'habitude de demander le pardon. Et puis, c'est la loi du talion. Donc, j'applique, je me mets au niveau. Le pardon chrétien, c'est pour celui qui le demande. Hein. Voilà. Celui qui ne vous demande pas le pardon chrétien, vous n'avez pas à le donner puisqu'il ne vous l'a pas demandé. La première des choses, c'est de le demander. D'accord ? Quand on vous dit « oui, tel mec a fait ça, il faut pardonner », non, il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé le pardon. Donc, s'il ne demande pas le pardon, il ne peut pas l'obtenir. C'est le béaba. Donc voilà. Moi, j'ai un code. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller. Il y a des mecs... Il y a des potes à moi, ils peuvent me dire des trucs, j'accepte. Et d'autres, non, ça passe pas. Et soyez comme ça, soyez monolithique. Soyez monolithique. Soyez intransigeant. Voilà. C'est comme ça. On a tous nos codes. Il y a des types qui n'acceptent pas. Par exemple, vous avez Bassem Raiki. Lui, il y a plein de trucs qu'il arrive à supporter. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que des personnes de couleur noire aient des relations sexuelles avec des maghrébines. D'accord ? Et il se prive pas de le dire sur Internet. Mais il n'est pas le seul à avoir le droit de faire ça. Il n'est pas le seul à avoir le droit de dire des trucs aussi violents. D'accord ? Si lui, il se permet ça, vous êtes chez vous, vous avez le droit de vous permettre d'avoir une codification ultra-violente. Hein. Je vous le dis parce que, si vous voulez, on va dire, le côté bourrin n'est pas réservé qu'à une catégorie de la population. Il faut se mettre au niveau. Voilà. Moi, je n'autorise pas certaines personnes à me dire certaines choses parce que l'histoire, parce que voilà. Parce que t'es pas... Moi, il y a des trucs que j'accepte des chrétiens que j'accepte pas d'autres personnes. T'as pas le Christ en toi, tu en fait, tu peux pas me dire certaines choses. Voilà. Donc, j'ai lâché mon boulot, j'ai tout lâché à ce moment-là. Et on était un mois avant Noël. Comme la musique de Two Weeks Before Christmas. Rodriguez. Elle est magnifique, cette chanson. J'ai été viré 2 semaines avant Noël. Magnifique, cette chanson. Sixto Rodriguez. Et moi, je me suis auto-viré un mois avant Noël. Voilà. Enfin, bref, les amis, fin du podcast. Je suis parti en couille à la fin, mais parce que ça m'a rappelé, ça a ravivé des souvenirs qui ont été douloureux à l'époque et dont je suis très très fier d'avoir triomphé aujourd'hui. Voilà, les amis. Ne vous laissez pas faire. On est dans une société où les gens se laissent trop faire. Redevenez des hommes libres et indépendants. Redevenez des hommes libres et indépendants. Redevenez des hommes, tout simplement. Et des femmes. Bisous à tous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast.